Europe Matin Weekend.
Bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1, dimanche sous le soleil, dimanche d'élection aussi, le premier tour des législatives, près de 6300 candidats en lice pour 577 sièges de députés, 48 millions d'électeurs appelés aux urnes et une grande inconnue, le taux de participation. Pour accompagner votre début de journée, les rendez-vous qui vous attendent dans ces deux heures d'information. 6h50, Vanessa Zah nous emmène sur les traces de Louis Pasteur dans le Jura, Arbois, Dole, Salines de Salins. Balade aux confins de l'histoire et de la science. 7h10, vous savez désormais dans quelle école, dans quelle fac vous êtes admis, mais savez-vous où vous logerez à la prochaine rentrée? C'est maintenant que la chasse au studio, à l'appartement en cité universitaire commence, souvent une galère. Anne Gobin, directrice de l'association de résidence pour étudiants et jeunes, nous aidera à trouver le bon plan. 7h20, Mathieu Alterman, ces chansons qui connaissent un nouveau succès grâce aux séries télé et au cinéma. Nous sommes le dimanche 12 juin, soyez les bienvenus dans votre matinale week-end. Europe 1, il est 6h, bon réveil à tous. C'est Lénaïque Monnier qui me rejoint en studio pour le journal. Bonjour Lénaïque.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Est-ce que vous irez voter aujourd'hui? Le risque de l'abstention plane sur les législatives. On va vous entendre d'ailleurs sur le sujet.
L'Ukraine veut accélérer sa demande d'adhésion en Europe. Ursula von der Leyen promet une réponse la semaine prochaine.
Dans ce journal également, un véhicule à piles pour remplacer l'essence et le diesel. On vous raconte ce pari un petit peu fou.
Dans la prochaine demi-heure, le pronostic de Thierry Léger pour le Quintet à Paris-Longchamp. Mélanie Gomez et Julie Vignali nous diront, elle, à quel point il est capital d'avoir des amis. Mais d'abord, la météo avec vous, Marlène Duré. Bonjour Marlène.
Bonjour Stéphane et bonjour à tous. Alors, journée estivale, oui, malgré une tendance orageuse dans les régions du quart sud-ouest cet après-midi, toujours de la chaleur. Les températures sont globalement stationnaires par rapport à hier. On fait un point complet à la fin du journal.
Europe 1. Qui entrera à l'Assemblée nationale et qui n'ira pas? Le quinquennat se dessine aujourd'hui.
On aura une tendance ce soir puisque les Français votent aujourd'hui pour ce premier tour des élections législatives. L'abstention, c'est la grande inquiétude des partis alors que l'enjeu du scrutin est pourtant crucial. On l'estime à 50% sur les quelques 48 millions de Français qui sont appelés aux urnes. Alors, est-ce que vous allez voter? On vous écoute.
Oui. Oui, évidemment.
Bien sûr. Ah oui. Ah oui.
Oui, oui, bien sûr. On se plaint tous, donc autant participer.
Comme au présidentiel, c'est important de se mobiliser. J'ai l'impression que ça se perd un petit peu. C'est très important car c'est un droit qu'on a eu du mal à conquérir.
Il y a tellement de pays dans le monde où on n'a pas le droit de vote que pouvoir voter, ça me semble pas une mauvaise idée. Et surtout quand on n'est pas d'accord et même quand on est d'accord.
Pour moi, ça va avec les présidentielles. En fait, si on vote pas après derrière pour voter aux législatives, ça n'a pas vraiment de sens parce que c'est eux derrière qui vont permettre de faire passer les lois. Donc, c'est un devoir pour moi.
Franchement, j'en sais rien. Je me suis pas du tout intéressé à qui se présente, à quels sont les programmes, à quoi que ce soit.
Non, je vais pas aller voter. Pour les présidents, éventuellement, pour les législatives, il y a beaucoup de programmes et j'ai pas vraiment pris le temps de tout lire et tout ça. Donc, je pense que moi, je vais m'abstenir.
Je suis désolée, moi, j'irai pas voter.
Un propos recueilli par Mathieu Limongi pour Europe. On aura un aperçu de l'affluence tout à l'heure dans le journal de 9h puisque nous serons dans un bureau de vote.
Absolument. Et puis ce soir, les rédactions d'Europe 1 et de CNews se mobilisent pour vous faire vivre ce premier tour des législatives. Rendez-vous dès 18h avec Pierre de Villeneuve et ses invités.
À l'étranger, 109e jour de guerre en Ukraine et l'armée russe qui continue de pilonner l'est du pays pour en arracher le contrôle. C'est d'ailleurs face à l'intensité des combats dans le Donbass que Volodymyr Zelensky a redit hier toute sa détermination à rejoindre les 27.
C'est certainement le moment décisif, et pas seulement pour l'Ukraine, mais aussi pour l'Union européenne, pour l'ensemble du continent européen. Il s'agit maintenant de décider quel sera l'avenir de l'Europe unie et s'il y aura un avenir. En ces temps de guerre cruelle, nous, Ukrainiens, avons prouvé que notre État et nos institutions publiques restent durables, que notre peuple est absolument intégré dans l'espace européen.
L'Ukraine qui doit tout de même remplir un certain nombre de critères pour pouvoir se porter candidate à l'adhésion à l'Union européenne. Ursula von der Leyen était de nouveau en visite à Kiev hier. Elle admet des efforts en la matière et se donne quelques jours seulement de réflexion.
Vous avez beaucoup fait pour renforcer l'état de droit, mais il reste encore à mettre en place des réformes pour lutter contre la corruption, par exemple, ou pour moderniser cette administration qui fonctionne bien pour aider à attirer les investisseurs.
Ursula von der Leyen qui promet donc une réponse d'ici la fin de la semaine.
Des manifestations aux États-Unis pour réclamer un meilleur encadrement des armes à feu.
Parce que le Congrès examine en ce moment la législation, la principale manifestation était donc à Washington, mais plusieurs milliers de personnes personnes se sont également réunies dans les rues de New York notamment. Des rassemblements qui font écho à la récente tuerie dans une école du Texas qui a coûté la vie à 20 personnes, dont 19 enfants.
Retour en France, l'émotion est toujours aussi forte dans le village de Clessé en Saône-et-Loire où une adolescente a été tuée par son petit ami.
Oui, une marche blanche est d'ailleurs organisée demain à la mémoire de la jeune Emma à 18h par le Poney Club où elle avait ses habitudes. Son petit ami, qui a reconnu les faits en garde à vue, a lui été mis en examen et écroué. Pourrait-il être jugé pour féminicide malgré le très jeune âge de la victime et le sien, 14 ans tous les deux? Céline Géraud a posé la question à Jean-Marc Benkemoun, il est médecin légiste et expert judiciaire.
On peut retrouver une définition plutôt précise, c'est-à-dire que c'est le meurtre d'une femme ou d'une fille. Il n'y a pas d'âge défini dans la définition. En raison de son sexe, bon, il faut théoriquement que l'agresseur ait une relation avec la jeune femme, que celle-ci soit en état de dépendance ou d'emprise, avec notamment des menaces, etc., qu'il y a un lien pathologique entre les deux, et en tous les cas, ce lien pathologique dans le cadre d'une relation sentimentale. Bon, le type d'acte aussi intervient dans la définition des actes avec grande violence, voilà, centré surtout sur le contrôle et l'empêcher l'autre de parler. Donc si ce que décrit le procureur de la République, si on prend dans l'absolu l'acte tel qu'il est décrit, je pense que, alors, effectivement, il pourrait s'agir d'un féminicide.
Jean-Marc Benkemoun, médecin légiste, expert judiciaire, au micro Europe 1 de Céline Géraud.
Justice toujours après les réquisitions, la parole à la défense dans le procès des attentats du 13 novembre.
Pendant deux semaines, les juges de la cour d'assises spéciale vont entendre les avocats des 14 accusés présents. Gladys Laffitte, vous serez au tribunal demain. Les avocats vont répondre à des réquisitions lourdes qui ont eu lieu vendredi.
Oui, des peines allant de 5 ans de prison à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté incompressible demandée par exemple à l'encontre de Salah Abdeslam. Des réquisitions qui semblaient justes pour de nombreuses parties civiles. Durant 3 jours, les avocats généraux ont égrené minutieusement les charges qui pèsent sur les accusés et qui les rendent coupables, selon eux, à des degrés divers d'avoir participé aux attentats les plus meurtriers de France. La parole est donc maintenant à la défense qui plaide toujours en dernier. 2 semaines pour convaincre les juges dans le cas de certains accusés, de ne pas condamner aussi lourdement que l'a demandé le parquet antiterroriste. Sans doute les avocats de Salah Abdeslam demanderont de ne pas prononcer cette peine de sûreté incompressible qui équivaut à la prison à vie réelle. À l'issue des plaidoiries, les 14 hommes présents pourront s'exprimer une toute dernière fois, quelques mots spontanés ou bien le silence comme certains l'ont fait tout au long du procès. Une dernière impression avant que les magistrats se retirent pour délibérer durant 2 jours. Ils rendront leur verdict le 29 juin prochain. Après presque 10 mois d'un procès totalement inédit.
Gladys Laffitte du service police-justice d'Europe 1.
6h06 sur Europe 1, si vous nous rejoignez à l'instant, soyez les bienvenus. Alors si vous avez une voiture, ça ne vous a sans doute pas échappé. Dès 2035, les moteurs essence et diesel en Europe, c'est terminé.
À cette date, en dehors de certaines voitures de luxe, seuls les véhicules électriques pourront être vendus en Europe. Autre option, et là c'est un projet un peu fou qu'on vous fait découvrir ce matin, une voiture à pile à combustible, portrait de son concepteur avec Aurélien Fleureau.
Fawzi Anaja a créé sa première entreprise à 22 ans, dans l'informatique, mais sa passion pour l'automobile l'a rapidement rattrapé. Alors en 2017, il se lance et part d'une feuille blanche.
Je me suis dit, et si on crée une marque automobile différente, avec une nouvelle vision des choses? Donc tout a commencé d'un document Word où j'avais écrit « projet ultime ». Et 5 ans après, voilà où est-ce qu'on en est.
Et ce projet sera donc Namix, futur constructeur de voitures premium à hydrogène avec une technologie inédite. La classique pile à combustible sera complétée par 6 capsules amovibles. Le tout permettra de rouler pendant 800 km.
Pour ne pas avoir cette peur, vous savez, la peur de tous les clients de nouvelles voitures propres, c'est de ne plus avoir d'énergie. C'est la même liberté qu'octroie le thermique, mais sans les inconvénients de la pollution. C'est une première mondiale, c'est vrai, on n'a jamais eu ce type de technologie-là dans un véhicule.
Au cœur de ce projet, faire le lien entre l'Europe et l'Afrique. La fabrication devrait se faire en partie au Maroc. Namix travaillera aussi avec des équipementiers français, allemands, ou italien comme Pininfarina, célèbre pour le design des Ferrari. Le compte à rebours est lancé. Les premières voitures seront livrées fin 2025.
On n'est pas tout à fait au prix de la Ferrari, mais ce SUV pourrait être proposé à un prix compris entre 65 et 95 000 euros tout de même.
Ah oui, quand même. Ouais. Bon, tiens, puisqu'on parle de voitures, un mot, le point sur les 24 heures du Mans, Lénaïg.
Oui, alors ce n'est pas une surprise. Les 2 Toyota sont en tête. Il reste 10 heures de course à présent. Le rugby, c'est également l'actualité sportive du jour avec Toulouse qui a remporté son match de barrage hier contre le récent champion d'Europe, La Rochelle. Le score 33-28. Le Stade toulousain affrontera Castres dans le dernier carré la semaine prochaine. Et Antoine Dupont y pense déjà.
Je pense qu'on avait un avantage très cher évidemment par rapport aux Rochelais qui ont disputé un match de très haut niveau, qui ont fêté ça. Voilà, c'est toujours dur de rebasculer sur votre compétition. Nous, on était concentrés sur ce barrage depuis plusieurs semaines maintenant et vraiment déterminés pour essayer d'aller jusqu'au bout, du moins d'aller déjà jusqu'à Nice. Et voilà, je pense que sur l'état d'esprit, ça s'est vu ce soir.
Antoine Dupont déterminant hier soir, sachant qu'il y a un autre barrage aujourd'hui. Celui-là se joue entre Bordeaux-Bègles et le Racing 92. Oui. On sait où votre cœur balance.
Ah bon, oui, allez, je le dis. Allez, l'UBB, je ne l'ai pas dit trop fort. La météo dans un instant. Merci Lénaïga, à tout à l'heure. Hein.
Oui.
Bonjour Marlène Duret.
Bonjour Stéphane.
Alors, qu'est-ce que vous nous annoncez là? Il va faire beau aujourd'hui?
Alors ça commence bien, oui, la matinée est plutôt belle. Il faut s'attendre à des petits brouillards là dans l'intérieur de la Bretagne, la Normandie, dans le Nord. Bon, ça va se dissiper assez vite. Bon, de la Nouvelle-Aquitaine au Midi-Pyrénées, là, petit bémol, hein, c'est pas un ciel tout bleu ce matin, on parle d'un ciel un petit peu chaotique, dans la mesure où quelques ondées pourront se produire en fin de matinée et puis elles peuvent tourner à l'orage hein, cet après-midi et en soirée, entre les Pyrénées et l'Ardèche, à l'ouest de l'Auvergne aussi. Hein. Donc ce temps un petit peu instable va gagner vers donc, le Massif central, la vallée du Rhône, puis les Alpes du Nord, la Franche-Comté. Si le corps a tendance aussi un petit peu à s'ennuager dans le sud-est, ça reste quand même lumineux. Et en revanche, le soleil continuera à briller généreusement de la Bretagne, une fois n'est pas coutume, dans le nord. De la Bretagne et des Pays de la Loire, aux frontières du nord, au Bas-Rhin, en passant par le centre-Val de Loire, l'île de France, la Normandie, les Hauts-de-France, le nord de la Bourgogne, hein, Lyon notamment. Donc voilà.
Pas mal quand même.
C'est quand même pas mal. Alors il a fait très chaud, vous savez, dans le Languedoc, hier, on a atteint les 37 degrés. Rebelote cet après-midi, 35 à 37 du Languedoc au Var jusqu'en moyenne vallée du Rhône. Côté Rhône-Alpes, 30 à 33 degrés. En allant vers le sud-ouest, et je sais que ça vous intéresse, 28 à 32. Alors comme souvent, Biarritz fait figure d'exception, 22 seulement hein, du côté de Biarritz. Et puis sur la moitié nord, 22 à 29. Alors 22 à Lille, 25 à Paris, 29 à Nevers. Et puis toujours un petit peu plus de fraîcheur en allant vers la Manche avec 17 à 21 degrés.
Merci beaucoup Marlène Duret, à tout à l'heure. À suivre sur Europe 1, bien fait pour vous, on va parler de l'importance de l'amitié dans nos vies. Mais avant, amateurs de chevaux, à vos stylos, voici les pronostics de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Stéphane, direction l'hippodrome de Paris-Longchamp pour ce quintet à handicap qui réunira 16 chevaux âgés de 4 à 9 ans qui en découdront sur la distance de 2000 mètres. Et il est légitime d'accorder un très large crédit au numéro 3 Sagano et 12 The Charmer. Sagano reste sur deux bonnes performances à ce niveau et sur cet hippodrome de Longchamp. The Charmer, lui, se recommande d'une probante deuxième place obtenue dans un quintet similaire le 17 mai à Saint-Cloud et qui auparavant s'était classé deuxième pour sa première tentative à Longchamp. Derrière ces deux priorités, je vous recommande les numéros 10, Ronaldo, prometteur troisième en dernier lieu d'un quintet sur cette piste, 9, Centurin, sixième pour sa première sortie à ce niveau et qui, à la faveur de quelques progrès attendus, devrait cette fois terminer dans les 5 premiers, et 13, Théorème, qui n'a qu'à répéter ce qu'il vient de réaliser à deux reprises dans cette catégorie pour terminer une nouvelle fois dans les 5 premiers. Enfin, les numéros 2, Hooking, qui défend les couleurs d'Antoine Griezmann, 1, Koshenko et 7, By the Way, sont autant de possibilités pour compléter la combinaison gagnante de ce quintet, agrémenté d'une tirelire d'un million d'euros. Mon pronostic, 3, 12, 10, 9, 13, 2, As et 7.
Merci beaucoup Thierry Léger. Ne bougez pas, restez tranquillement avec nous, buvez votre café, votre thé et en chanson sur Europe 1 avec la belle voix grave de Marc Lavoine, cœur d'occasion. À tout de suite.
Europe 1, bien fait pour vous.
Julie du lundi
Vignali et Mélanie Gomez.
Du lundi, j'étais un peu pressé au vendredi, c'est l'émission qui nous fait du bien, qui nous aide à prendre soin de nous tous les matins. Bien fait pour vous de 11h à midi, Mélanie Gomez, Julia Vignali. Recevez cette semaine la psychologue Anne-Laure Buffet et la coach en développement personnel Alexandra de Rouillac avec cette question aussi simple qu'essentielle. L'amitié est-elle indispensable à notre bonheur ?
Alors Anne-Laure, pour commencer, est-ce que vous avez une définition de l'amitié ? On peut parler d'amour sans sexualité, si je dis ça, ça va ? Ou c'est pas tout à fait ça ?
C'est un peu ça, quand même. A priori, dans l'amitié, il n'y a pas de sexualité. En tout cas, c'est à la différence de l'amour. Il y a une vraie réciprocité. On ne peut pas être ami de quelqu'un qui n'est pas notre ami. Alors qu'on peut être amoureux de quelqu'un qui ne nous aimera jamais. C'est désespérant, mais c'est ainsi. Et surtout, l'amitié, c'est de la réciprocité, c'est de la loyauté. On n'est pas forcément loyal. En amour, on devrait, mais on ne l'est pas toujours.
Ça a l'air plus cool que l'amour, finalement, presque.
Bah, c'est plus cool, mais ce qui est certain, c'est que les ruptures amicales font beaucoup plus mal que les ruptures amoureuses. Enfin, la rupture amoureuse, on va en mourir pendant quelques semaines, et ça passe. Mmh. Une rupture d'amitié, je vous entendais en arrivant, quand vous parliez de vos histoires, une rupture d'amitié longtemps après, on la comprend toujours pas, et elle est toujours aussi blessante, c'est parce qu'elle est toujours aussi inexpliquée.
Ça, c'est sûr.
C'est peut-être là aussi la différence, c'est-à-dire que, même s'il n'y a pas de sexualité, je veux dire, il peut y avoir ce moment d'égarement, quelle que soit la période depuis laquelle on est amis. Il peut y avoir un jour où on est un peu comme quand Harry rencontre Sally, on bascule entre les deux, on ne sait plus trop. Mais en revanche, lorsqu'il y a une rupture, on s'en remet très difficilement parce qu'il y a quelque chose qui est inexplicable. Alors qu'en amour, malheureusement, on se doute que ça peut s'arrêter.
Alors Alexandra, je rappelle que vous êtes coach du bonheur. Et justement, est-ce qu'avoir des amis, c'est indispensable pour être heureux selon vous ?
Alors, la psychologie positive, en tout cas, nous démontre qu'en effet, le bonheur passe par la relation des autres. Donc oui, c'est indispensable, mais après, je ne veux surtout pas culpabiliser ceux qui n'ont pas d'amis. Si vous n'avez pas d'amis, c'est OK, mais posez-vous les bonnes questions. Est-ce que vous n'avez pas d'amis parce que vous avez peur d'être jeté ? Est-ce que vous n'avez pas d'amis parce que vous avez peur d'être encore déçu ? Ou est-ce que parce qu'aujourd'hui, ça vous convient, et puis peut-être à un moment, vous aurez besoin de renouveler votre réseau amical. Mais oui, à la base, avoir des amis, c'est évidemment booster son bonheur.
Ça me semble dingue de ne pas avoir d'amis du tout. Ça doit être difficile à vivre, non ?
Anne-Laure, votre avis, il est très tranché sur la question. Vous écrivez qu'il semble inimaginable de ne pas avoir d'amis dans sa vie, ne serait-ce qu'un seul. Pourquoi c'est essentiel, selon vous ?
C'est essentiel, il y a deux facteurs. Il y a ce qui nous est renvoyé par la société et il y a la façon dont on se construit. Ce qui nous est renvoyé par la société, c'est quelqu'un qui n'a pas d'amis. C'est un peu comme quelqu'un qui n'aurait pas d'amour dans sa vie. C'est louche. Ouais. Donc, quelqu'un qui va se présenter en disant « j'ai pas d'amis très proches », c'est comme s'il arrivait avec une étiquette « attention, danger ». Et il ne le fait pas exprès. Hein. Ah oui. Et il y a plein de personnes qui pensent ne pas avoir d'amis parce que pour eux, c'est une valeur incroyable. Et en fait, ils ont des amis, mais pas... peut-être pas aussi profondément qu'il le souhaiterait. Et puis, individuellement, profondément, je crois que l'amitié nous nourrit et elle nous permet de nous construire, de nous élever, de nous dépasser. Et si on n'a pas d'amis, il nous manque une part de nous qu'on n'est pas capable d'aller chercher, que les amis vont aller chercher pour nous.
Alors, des gens, on en croise tous les jours. Mais qu'est-ce qui va faire justement que deux personnes, deviennent amies ? Je dis paf, ouais. Ce sont les points communs, les affinités. Qu'est-ce qui fait que ça accroche ?
Il y a plein de raisons pour que ça accroche.
Même si ça n'est pas paf, ça peut être plus lent que ça.
Ça peut être paf. Il y a plein de raisons. Ça peut être d'abord des affinités intellectuelles, des affinités dans les goûts personnels, dans la façon dont on va aller chercher un moyen de s'exprimer, artistique, culturel, que sais-je encore. Ça peut être, comme je l'évoque dans le bouquin, un exemple qui est très frappant, des amitiés qui sont complètement improbables à l'origine. Celle que j'évoque, c'est l'amitié entre un Palestinien et un Israélien, dont l'histoire est d'ailleurs dans un livre qui s'appelle Apérogon, un livre merveilleux. Ces deux pères qui perdent chacun un enfant, chacun tué par une balle perdue du camp adverse, et qui vont se retrouver, qui deviennent amis, mais vraiment amis intimes, alors qu'a priori, ils devraient être ennemis tels qu'on l'imagine. Il n'y a pas vraiment de raison pour qu'on devienne amis. C'est ça. Enfin, ce qui est fabuleux dans l'amitié, c'est qu'elle est comme l'amour, elle est inexplicable. Mmh. Et très souvent, quand on dit « je t'aime », qu'on nous dit « pourquoi est-ce que tu aimes d'amour ou d'amitié ? Pourquoi est-ce que tu aimes telle personne ?» Ben, c'est quand on n'a plus de raison qu'il y a vraiment ce sentiment qui est inscrit, parce que sinon on a notre liste de raisons, ça colle pas.
Alexandra, pourquoi c'est plus facile, enfin on a l'impression en tout cas, pourquoi c'est plus facile de se faire des amis quand on est enfant ? Ça paraissait tellement simple quand on était dans la cour de récré, hop, t'es mon ami, t'es ma copine,
enfin, c'est vrai.
Adulte, ça a l'air plus complexe quand même. Hein.
Ben justement parce que quand nous sommes enfants, nous faisons plus confiance en notre intuition. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est vrai que quand on était enfant, ben, généralement, dès le premier jour de l'école, on avait déjà choisi notre meilleur ami et on pouvait même y aller direct. Tiens, tape là, tu veux être ma meilleure amie, ben allez, c'est OK.
Allez, on est meilleurs amis.
Mais le pire, c'est qu'en fait, ça restait. On ne s'était pas trompé. Et ça peut durer une année scolaire, ça peut durer 10 ans ou ça peut même durer toute une vie. Moi, je sais que ma meilleure amie du CP, ma première amie, ben, nous sommes toujours amis. Donc,
c'est génial.
Et puis, on n'a pas eu de déception, donc on ne se pose pas de questions, en fait.
Qu'est-ce que vous conseillez ? Est-ce qu'il y a des gens qui vous conseillent, justement, je rappelle, vous êtes coach en développement personnel, mais est-ce qu'il y a des gens qui viennent voir parce qu'ils sont trop timides et que, justement, ils n'arrivent pas à se faire des amis ? Qu'est-ce que vous leur conseillez, a priori ?
Ben, en tant que coach, justement, généralement, en tant que coach du bonheur, j'ai beaucoup de personnes personnes qui manquent de confiance en elles. Donc, elles ont peur de ne pas être intéressantes. Donc, elles ne vont pas aller vers les personnes. Donc, plutôt, on ne va pas se dire « comment je vais faire pour être intéressant ?» Mais je vais m'intéresser vraiment à l'autre. Mmh. Et si on s'intéresse vraiment à l'autre, si on lui pose des questions, si on lui montre qu'il est intéressant, on parle deux minutes, on se souvient de son prénom, on l'a trouvé quelque chose de joli, ben on va lui dire peut-être « tiens, j'adore ta veste ». Et si je te dis ça, à chaque fois que tu portes cette veste, si je te dis qu'elle te va bien en teint, tu te souviendras de moi, donc je t'ai déjà ancré quelque part dans ton cerveau. C'est vraiment se décentrer, parce que souvent quand on est timide, on a peur du jugement, et se dire « je vais vraiment m'intéresser à l'autre ». Et à un moment, on verra qu'on crée du lien.
Bien fait pour vous, c'est sur Europe 1, du lundi au vendredi, de 11h à midi.
Europe Matin Weekend, Stéphane Place.
Vous êtes de plus en plus nombreux sur notre page Facebook Europe Matin Weekend et cela nous fait évidemment très plaisir. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. Europe Matin Weekend, c'est votre matinale. 6h30 sur Europe 1, l'information de ce dimanche matin, c'est avec vous Guillaume Dominguez. Bonjour Guillaume.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Aux États-Unis, des milliers d'Américains demandent un meilleur contrôle des armes. D'importantes manifestations ont eu lieu hier dans les grandes villes du pays. À suivre le reportage de notre correspondant dans les rues de New York.
L'Australie dédommage Naval Group dans l'affaire des sous-marins. 555 millions d'euros seront versés à l'industriel français. Une compensation nécessaire pour clore le dossier, selon le général Trinquant, que nous entendrons dans un instant.
Et on ira faire un petit tour en Dordogne aussi, où un petit village sort de son isolement après la réparation d'une départementale. Le reportage de Benjamin Peter dans ce journal.
Au sommaire de la prochaine demi-heure, à 6h40, le chanteur Ben L'Oncle Soul est l'invité de Philippe Legrand pour la sortie de son dernier album Red Mango. À 6h45, la balade du dimanche avec Vanessa Zah. Nous irons dans le Jura sur les traces de Louis Pasteur. Mais avant, eh bien, on va avoir l'occasion de développer les titres de ce journal.
Europe 1.
Trop c'est trop, arrêtons le massacre. Un enfant vaut plus que votre fusil. Des milliers d'Américains se sont rassemblés hier dans les grandes villes des États-Unis.
Une journée de manifestation pour demander le contrôle renforcé sur les armes à feu après une série de fusillades meurtrières ces dernières semaines, dont celle d'Uvalde au Texas, qui a coûté la vie à 21 personnes, dont 19 enfants. La principale manifestation était à Washington, mais plusieurs milliers de personnes se sont également réunies dans les rues de New York. Le reportage sur place d'Alexis Guilleux.
La liste lancinante des villes endeuillées par les armes à feu résonne au cœur de Manhattan. Elena est venue avec son mari sur sa pancarte une inscription, des livres et pas des armes.
Les armes doivent être éliminées. Il n'y a aucune raison pour qu'un citoyen lambda qui ne soit pas policier ou militaire possède une arme.
Dans le cortège, de nombreux professeurs et parents témoignent de leur peur au quotidien. Jérémy est originaire de l'État conservateur d'Arkansas.
Notre fils aîné est en maternelle et il doit déjà faire ses exercices de tir actif. Je suis très inquiet des conséquences à long terme sur le fait qu'il craigne pour sa vie à l'école.
La Chambre des représentants a voté cette semaine un texte pour bannir les fusils d'assaut au moins de 21 ans, réforme condamnée en l'état au Sénat à cause du blocage des élus conservateurs soutenus par les lobbies pro-armes.
La NRA est un lobby si puissant dans ce pays. Je suis terrifié par le fait que leur influence est supérieure à ce que nous avons, nous, les électeurs. On vote, mais ils ont l'argent. Et avec cet argent, ils ont le Sénat.
Alors que les négociations vont se poursuivre dans les prochains jours, de nombreux manifestants confient avoir très peu d'espoir de voir changer les choses. New York, Alexis Guilleux, Europe 1.
9 mois après l'affaire de la vente avortée de sous-marins, la France et l'Australie enterrent la hache de guerre.
Le gouvernement australien va dédommager Naval Group à hauteur de 555 millions d'euros pour compenser la perte du contrat. Une indemnisation nécessaire pour clore la crise diplomatique, c'est ce qu'explique le général Dominique Trinquant, ancien général de l'ONU et spécialiste des relations internationales.
Ce dédommagement, ça représente la fin d'un épisode qui n'est pas à l'honneur de l'Australie, mais qui clôt le débat. En fait, l'Australie paye 1% de l'ensemble du contrat. Le contrat était à 56 milliards. Elle paye 550 millions, ce qui permet à Naval Group de ne pas licencier le personnel et de continuer sur d'autres activités. Et à l'Australie, j'allais dire d'enterrer la hache de guerre qu'elle avait déterré avec l'accord qu'elle avait rompu et le nouvel accord passé avec les États-Unis et la Grande-Bretagne. Ça clôt un chapitre mauvais parce que les Australiens avaient rompu leur engagement. Ça mettait une ambiance détestable entre la France et l'Australie, alors que la France et l'Australie sont des pays proches et nous avons besoin de coopérer ensemble.
Des propos recueillis par Océane Théard pour Europe 1. Retour en France à présent où les bureaux de vote vont ouvrir dans moins d'une heure et demie. Maintenant en métropole, les Français ont rendez-vous avec les urnes pour le premier tour des élections législatives. Sachez que les rédactions d'Europe 1 et de CNews se mobilisent pour vous faire vivre l'événement. Rendez-vous dès 18h avec Pierre de Villeneuve et ses invités, puis à partir de 19h avec Laurence Ferrari, suivi de Sonia Mabrouk pour cette soirée électorale.
Débat, décryptage, une soirée qui promet d'être riche. On part à présent en Dordogne, où un chef d'entreprise met la main à la poche, oui, pour rétablir l'accès à un site touristique.
Oui, la départementale 66, surnommée la route de la préhistoire à Pézac-le-Moustier, est ouverte depuis le début du mois. Elle était fermée partiellement depuis 2 ans, Benjamin Péter.
C'est en novembre 2019 qu'un rocher se détache de la falaise qui surplombe la départementale 66. La préfecture décide donc de fermer la route et depuis, plus rien, une catastrophe pour Jean-Max Touron, alors que c'est le principal chemin d'accès à son site troglodytique de la Roque Saint-Christophe qui accueille près de 200 000 visiteurs par an.
Nous, on perdait beaucoup d'entrées parce que dès qu'il y a une histoire comme ça, les GPS détournent les visiteurs et ils n'arrivent pas forcément chez nous, ils se perdent.
La route n'a rien, mais pour la rouvrir, il faut sécuriser la falaise pour éviter tout éboulement. Légalement, c'est à son propriétaire de payer, mais ce vieux monsieur n'en a pas les moyens. Jean-Max décide de financer lui-même les travaux à hauteur de 100 000 euros.
Je ne voyais pas la solution, je ne voyais pas l'issue de tout ça. Tout le monde a dit, nous, on ne peut pas payer. Et voyant que la situation pourrissait, s'engluait, j'ai dit, bon, allez, on fait l'effort, on ouvre.
Après un mois de travaux, la départementale a donc pu ouvrir le 1er juin une initiative qui ravit aussi les habitants du village voisin qui devaient faire un détour d'une dizaine de kilomètres pour faire leurs courses ou aller travailler. À Pézac-le-Moustier, Benjamin Péter, Europe 1.
Et pour clore ce journal, Stéphane, je vous propose une sélection de livres pour l'été.
Là, je tends l'oreille, là.
Recommandé par Bill Gates lui-même.
En plus.
Alors, c'est une pratique assez courante. Aux États-Unis, les personnalités célèbres ont l'habitude de donner régulièrement leur liste de lecture. Barack Obama et Oprah Winfrey sont coutumiers du fait. Et c'est donc au tour du fondateur de Microsoft de se prêter à l'exercice, Nicolas Caro.
On pensait que Bill Gates se reposait un peu l'été en s'aérant et en s'évadant, mais non, fiction ou essai, il s'intéresse plutôt aux sujets graves, avec Le Pouvoir, par exemple, de Naomi Alderman, un conseil de sa fille aînée, un roman qui imagine un monde où les femmes peuvent infliger une douleur extrême et même tuer. D'un seul geste de la main, elles deviennent le sexe fort, un prétexte de fiction pour s'intéresser aux différences de sexe. Autre roman, Lincoln Highway, prévu à la rentrée en France, signé Amor Tolls, un road trip dans l'Amérique des années 50, Bill Gates explique aussi qu'il a découvert un roman d'anticipation lors de ses conférences sur le changement climatique, The Ministry for the Future de Kim Stanley Robinson, pas encore traduit. Deux essais aussi, Why We Are Polarized d'Ezra Klein sur la polarisation des opinions et How the World Really Works, comment le monde fonctionne vraiment de Vaclav Smil, l'un de ses auteurs préférés. It's a tour de force, note Bill Gates en français dans le texte.
Bon, voilà Stéphane, il ne nous reste plus qu'à trouver le meilleur endroit pour un bon moment lecture.
Bah aujourd'hui, ce sera à l'ombre, a priori, enfin, je pense. Merci beaucoup, Guillaume Dominguez. On se retrouve tout à l'heure. Marlène Duré, aujourd'hui, il fait très chaud déjà, et puis surtout, enfin, il va faire très chaud, et puis déjà, on sent que la journée débute sous le soleil. Hein.
Oui, elle débute sous le soleil à quelques exceptions près, Stéphane, parce qu'on a quand même quelques brouillards en ce moment du côté de la Bretagne et de la Normandie. Bon, ça va se dissiper assez vite. Et puis en allant vers le sud-ouest, bon, c'est pas le grand bleu. Partout ailleurs, oui, on se réveille sous le soleil. Mais ce qui va se passer, c'est que le temps va devenir instable des Pyrénées au Massif central et que des orages isolés, parfois forts, pourraient bien se déclencher en Nouvelle-Aquitaine, côté Limousin par exemple, mais aussi entre l'Ariège et les Pyrénées-Orientales, du côté de l'Ardèche. Et ce temps instable va continuer à se décaler en fin de journée vers les Alpes du Nord et le Jura. Dans le même temps, bon, on a des nuages qui vont apparaître dans le ciel côté Méditerranée, hein, des rivages jusqu'à la vallée du Rhône et à la Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec peut-être quelques petites averses sur le relief des Alpes du Sud et ailleurs. Donc en continuant vers le nord, cet après-midi, eh bien, le soleil restera bien généreux. On a un petit peu de vent, un petit peu un vent frais entre les côtes de la Manche et le bassin parisien. Ça pourrait être agréable.
Oui, ça peut faire du bien.
Ça peut faire du bien. Alors justement, les températures, toujours près de la Manche, hein, pour les températures les plus basses, avec un 17 degrés du côté de Cherbourg, nous aurons 24 à Orléans, 25 à Paris, 29 à Besançon, 30 à Limoges. Ça commence à chauffer en allant vers le sud, 31 du côté de Toulouse, 32 à Montpellier et toujours 35 à 37 entre le Languedoc, le Var et la moyenne vallée du Rhône.
Merci Marlène, merci beaucoup. À 7h10, on part en balade, cap sur le Jura et voyage dans le temps puisque l'on va y retrouver Louis Pasteur quand il était encore un jeune scientifique en devenir. Surprenant, vous verrez. Mais tout de suite, Philippe Legrand.
Ajaccio, ville d'art, d'histoire et de rencontres, vous présente l'entretien de Philippe Legrand.
L'entretien de Philippe Legrand, bien entendu. Et aujourd'hui, l'oncle Soul, c'est ce qu'a choisi Philippe Legrand avec cette habitude du dimanche matin. Vous savez, un invité, des archives, une date, une histoire. Bonjour Philippe Legrand.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Rendez-vous en 1969 du côté de Harlem. Bonjour Ben.
Bonjour Philippe.
Ben, l'oncle Soul, c'est vous. Une voix, des rythmes, l'Amérique du gospel et une certaine nostalgie du blues. Votre talent pour le chant, pour la musique, remonte à vos plus jeunes années. Peut-être parce que chez vous, à la maison, en Indre-et-Loire, votre mère écoutait régulièrement et entre autres Otis Redding et Ray Charles. Des influences qui comptent, un peu plus de 10 ans de carrière aujourd'hui, des tubes et des refrains que l'on fredonne. Soulman en tête, Ben l'oncle Soul, le nœud papillon de vos débuts, vous a donné des ailes. Dans votre style, il y a une élégance, une sensibilité qui font de vous un artiste complet. D'ailleurs, votre diplôme des Beaux-Arts en poche n'est pas étranger à toutes vos créations qui vont bien au-delà de la chanson. Votre nouvel album Red Mango en est la preuve. Ce matin, vous avez choisi de nous emmener en 1969 au Harlem Festival. À l'époque, Robert Marcy dans Musicorama sur Europe numéro 1 ont rappelé le programme.
Finale de ce spectacle américain à l'américaine. Aux enchaînements rapides et serrés pour ce final viennent se joindre aux quatre miracles déjà en scène. Les six musiciens d'Earl Van Dyke, Martha et les Vandellas, Stevie Wonder, les Supremes et tous ceux qui ont contribué au succès du Tamla Motown Show.
Incroyable, hein, cette incroyable. Voix, Ben, l'oncle Soul. Alors pourquoi cette année 1969 ? Il y a évidemment beaucoup à dire, mais là on va s'arrêter sur ce qui s'est passé du côté de New York et plus précisément au Harlem Cultural Festival. Vous n'étiez pas né à l'époque ?
Non, alors moi évidemment je n'étais pas né, mais j'ai grandi dans les vieux disques et c'est vrai qu'on a souvent parlé du festival de Woodstock parce qu'il est mythique et on n'a jamais parlé, alors que ça se passait à quelques kilomètres de là, du Harlem Cultural Festival qui avait lieu donc le 13 juin 1969.
C'est précis. Et le nombre de personnes qui assistaient était considérable. Un succès avant peut-être aussi Woodstock, 300 000 personnes.
Alors le festival, il existe en fait depuis 67, mais c'est l'édition de 69 qui restera un peu gravée dans les mémoires de Harlem. On l'appelle le Woodstock noir, hein, carrément, et ça a réuni plus de 300 000 personnes avec une série de concerts donnés par des artistes majeurs comme Stevie Wonder, Nina Simone, B.B. King, Sly and the Family Stone, il y avait Mahalia Jackson, aussi la chanteuse de gospel. C'est assez incroyable, ouais.
Ben, l'oncle Soul, c'est votre mère qui vous a parlé de ce moment-là, de cette année 1969. Comment est-ce que vous avez fait la connaissance de ce festival ?
Non, peut-être au travers des disques de Jimi Hendrix, il y avait un petit peu de Woodstock. Mais en vérité, c'est le batteur de The Roots, qui s'appelle Amir Questlove Thompson et qui a fait un super documentaire qui a été d'ailleurs récompensé pour le meilleur documentaire de 2022. Et c'est à travers ce documentaire que j'ai redécouvert cette année-là.
On y voit des images, évidemment ces stars que vous citiez tout à l'heure, qui à l'époque, il faut le dire, au fond, débutaient. Je pense à Stevie Wonder.
Nina Stevie Simon. Wonder, il avait 18 ans, il est tout jeune. Et c'est vrai que ça fait plaisir de redécouvrir des images de lui à cette époque-là. Y a aussi
qu'on ne connaît pas, au fond d'ailleurs, on n'a pas en tête le physique de Stevie Wonder à 18 ans.
C'est Little Stevie avant d'être Stevie Wonder. Là, c'est les premières années où il est Stevie Wonder quand même. Donc il a déjà une carrière encore plus jeune. Mais c'est le genre de festival dont on n'a jamais parlé. Et dont il faut absolument se souvenir.
Ben, ce rendez-vous-là de 1969 au Harlem Cultural Festival a une dimension qui n'est pas que musicale.
Non, parce que prennent également aussi la parole des leaders de la communauté afro comme Jesse Jackson, Marcus Garvey, et puis il y a le maire de New York aussi à cette époque-là, sans qui évidemment le festival n'aurait pas pu se dérouler, qui s'appelle John Lindsay. C'est le maire de New York et c'est l'ami de Tony Lawrence qui organise ce festival et qui travaille en fait à la culture de la ville de New York.
Votre nouvel album, Lui s'appelle Red Mango. C'est aussi ces rythmes-là, en quelque sorte. Vous avez choisi une couleur musicale particulière pour revisiter un certain nombre de tubes. Comment s'est fait ce choix? C'est le nouvel album, un cinquième?
Ouais, c'est mon cinquième projet. L'idée, c'était de faire un clin d'œil aussi à mes origines caraïbéennes. Moi, je suis métis et du côté de mon père, ils sont en Martinique, aux Trois-Îlets, à Beaufont plus exactement.
C'est précis.
Ouais.
On voyage.
Ouais, le truc, c'est que moi, j'ai pas vraiment grandi avec cette culture caraïbéenne. J'ai plus grandi avec la culture afro-américaine de ma mère. Et finalement, j'avais envie de faire le pont. En tant que métis, c'est toujours important de faire le lien entre ces différentes origines. Et puis, j'avais juste envie de reprendre la soul version reggae, comme ça se faisait un peu dans le label Studio One en Jamaïque.
Alors, il faut dire aussi que la pochette est également extrêmement travaillée. Hein. Les titres sont là, ils sont travaillés. Hein. Il y a 9 titres pour 9 univers hein, ouais. particuliers. Ces rencontres musicales que vous évoquez là, avec la Jamaïque, entre autres, et ces rythmes. Mais il y a aussi sur cette pochette, je le disais dans le portrait en vous présentant, on sent l'homme du dessin, l'homme qui voit tous les détails artistiques. Elle est très dessinée, cette pochette.
C'est vrai que c'est un mood. Au milieu d'une rue. J'ai essayé de mettre un maximum de personnalité et de tempérament, puisque déjà, ce sont des reprises. Les morceaux ne m'appartiennent pas, ou du moins, une fois qu'on a sorti des morceaux, ils appartiennent à tout le monde.
Donc, vous les revisitez.
Justement, le travail était vraiment de l'ordre de réarranger, revisiter, et puis apporter aussi une dimension graphique avec Yamoy, qui est une équipe de graphistes et dessinateurs de Paris, qui sont des amis. Et on a imaginé cette espèce de corner parfait parisien où à la fois tu as une boutique idéale où tu peux aller acheter des smoothies à la mangue et aussi, je sais pas, laver tes fringues, acheter un vinyle, une fringue, un truc.
On y trouve Imagine, mais dans votre voix, une autre version, Stay entre autres. On va se quitter avec un morceau qui est dans votre playlist et dans notre playlist à tous, extrait de cet album Red Mango, Ben, l'oncle Soul. Ce morceau s'intitule « My world is empty without you ». Vous l'avez choisi, merci d'être venu sur Europe 1 avec vous et c'était votre date. On est rentré dans ces années 1960, 1969 plus précisément, du côté de Harlem pour le Harlem Cultural Festival. Votre album Red Mango. En voici un extrait. Merci Ben, l'oncle Soul.
Merci.
Europe Matin Weekend, Stéphane Place.
Une météo très sympa aujourd'hui. Hein. On l'a entendu dans les prévisions, avec même un coup de chaud, notamment dans le sud-ouest. Alors peut-être qu'on va s'offrir un peu de fraîcheur grâce aux balades avec vous, Vanessa Zah. Bonjour.
Et bonjour Stéphane.
Je disais un peu de fraîcheur parce qu'on prend la direction du Jura ce matin pour passer au microscope le pays de Pasteur, de Louis Pasteur, dont on célèbre le bicentenaire de la naissance.
Et c'est ça, avec beaucoup de moments forts qui vont s'égrener tout au long de l'année. Et ça commence dès le mois de juin, là justement, avec la quinzaine des illustres à Arbois, autour de cafés scientifiques. Alors le but, c'est de faire rentrer la science hein, dans des endroits où on s'y attend le moins. Des cafés, mais aussi des bars, des librairies. Ça passe par des rencontres avec des très grands chercheurs, mais aussi des spectacles, des cabarets sur la science. Donc ça, c'est une bonne manière de la démocratiser, justement. Il y a aussi des manifestations, une exposition à la Saline de Salins. Et puis, notaire en octobre, à l'occasion de la quinzaine des microbes, et oui, ça existe, une grande conférence qui sera programmée à Dole le 9 novembre.
Alors moi, je vous ai écouté attentivement, il y a un truc que je ne comprends pas. Pourquoi des manifestation à la Saline de Salins. Enfin, quel est le lien entre Pasteur et ce territoire, si je comprends bien, de sel?
Alors moi aussi j'ai été surpris justement. C'est Sylvie Morel, la directrice des Maisons Pasteur, qui va vous donner la réponse. Vous allez découvrir une autre de ses facettes.
Sa famille venait de Salins-les-Bains, où il avait évidemment beaucoup d'amis. Et nous, pour ce bicentenaire, on a surtout voulu parler du Pasteur jeune chercheur, le Pasteur de 20 ans, encore curieux de tout. Eh ben, à 20 ans, Pasteur était à Salins-les-Bains et courait le Mont Poupée avec son ami Jules Marcoux pour faire des excursions géologiques. On était en pleine période de découverte des dinosaures et cette paléontologie passionnait littéralement Pasteur. Et d'ailleurs, Pasteur a donné des cours sur le sujet et puis il a gardé toujours un intérêt pour les travaux de son ami Marcoux, qui lui est devenu un géologue de renom aux États-Unis.
Alors là, c'est marrant parce que déjà, imaginez Pasteur à 20 ans, et en fait, il aurait pu être paléontologue.
Il aurait pu être même être peintre. Il a voulu être peintre à un moment aussi. Ouais.
Il nous aurait manqué dans ses talents suivants, mais Sylvie disait qu'il était né à Dole. Est-ce que la maison de Pasteur à Dole existe toujours, Vanessa?
Alors, sa maison natale de Dole, oui, elle se visite. Maison Pasteur a même lui-même baptisé en 1883. C'est pour montrer à quel point il était célèbre de son vivant, parce que évidemment, on sait bien qu'une plaque commémorative, en général, c'est des décennies après notre disparition. Enfin, je ne parle pas de la mienne. Et puis, il y a aussi la maison. On ne sait jamais. Et il y a aussi une maison dans laquelle il a vécu. À Arbois, son château de la Cuisance, comme il l'appelait. C'est le nom de la rivière qui coule à côté de sa maison. Et alors, cette maison, elle est en plein milieu des vignes. Important ce détail, puisqu'il y a installé un laboratoire. Laboratoire d'ailleurs que vous pouvez toujours voir. Alors, j'imagine, si je vous dis vigne, vous voyez sûrement où je peux en venir.
En bordelais. Oui, je vois à peu près.
Allez, on réécoute Sylvie.
Les vins s'exportaient en Angleterre, mais faute d'une connaissance des fermentations, le vin tournait au vinaigre. Pasteur va montrer que ces défauts du vin étaient liés à l'action de bactéries parasites qu'on pouvait éliminer assez facilement en faisant chauffer le vin à 55 degrés pendant quelques minutes. Ça a donné lieu à un brevet de conservation des vins par chauffage, et très rapidement, les Allemands ont donné le nom de Pasteurisation, la pasteurisation, pour ce brevet. Donc la pasteurisation a vraiment été inventée ici à Arbois pour conserver le vin. Après, Pasteur l'a adapté pour la bière, et puis ce n'est qu'à la fin du siècle qu'un chimiste allemand l'a adapté pour le lait.
Ah oui, c'est vraiment intéressant, c'est sympa cette maison. Ouais. On a rendez-vous avec l'histoire et la science. Je valide, en plus, le bordelais que je suis au milieu des vignes, c'est quand même assez tentant pour partir en balade. Est-ce que vous avez une ou deux de ces promenades à nous suggérer, Vanessa?
Alors, il y a des randonnées qui sont programmées justement sur cette thématique de Pasteur jusqu'à septembre. Sac à dos et chaussures. On part à Marnaud, à côté de Salins-les-Bains. Alors, c'est un petit village ultra charmant avec une jolie rivière qui s'appelle La Vache. Une histoire aussi avec Pasteur, puisque son père avait une tannerie au bord justement de cette rivière. Allez-y, le guide est bourré d'anecdotes sur sa vie. C'est une très belle balade. Foncez-y. Une autre sur le mont Poupée, dont Sylvie nous parlait pour ses expéditions géologiques. Incontournable. Et puis une dernière du côté de sa vigne de Rodière. Je sais. À Montigny, les Arsures, à côté d'Arbois, où il a donc effectué des expériences sur les vignes. Moi, j'aime bien Montigny, parce que c'est un beau village vigneron avec de très belles maisons, même demeures, bien cossues. Les dates des randonnées sur terre de louispasteur.fr. Voilà, allez-y, allez vous connecter.
Alors, on va regarder ça, hein, les vignes, donc, qui sont toujours des lieux d'expérience. Aujourd'hui, on envoie des cèpes de vignes dans l'espace.
C'est vrai.
C'est une autre balade.
Ah bah, quand vous voulez.
Une petite adresse proposée, c'est valide, Vanessa?
Un très bel hébergement qui vient d'ouvrir à Dole, les chambres du parc, les chambres d'hôtes de Nel et Clément, qu'ils ont entièrement rénovées. Et alors, Stéphane, je vous ai pré-réservé une chambre pour la nuit du 8 juillet. Car le 9 juillet, le Tour de France partira de Dole pour sillonner, évidemment, le Jura.
Bon, très bien, vous avez tous les arguments. Merci beaucoup, Vanessa Zah, pour cette balade. À la semaine prochaine.
Bon dimanche.
Europe Matin Weekend.
Votre matinale info sur Europe 1.
Bon réveil sur Europe 1. Dimanche d'élection, les bureaux de vote ouvrent dans une heure. Il est 7 heures.
Europe Matin Weekend. Stéphane Place.
Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à l'instant. Un point complet sur l'actualité ce dimanche, c'est le journal avec Lénaïque Monnier. Bonjour Lénaïque.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Serez-vous nombreux à vous rendre aux urnes? C'est le point d'interrogation qui plane sur ces législatives. On parle d'une participation de 50% seulement.
Les armes à feu prolifèrent en Martinique et les morts par balles sont de plus en plus nombreux. Reportage dans cette édition auprès de la population désemparée.
Et puis à la fin de ce journal, un contrat en or pour Aurélien Tchouaimani, le jeune footballeur monégasque qui est transféré au Real Madrid pour 100 millions.
Comment éviter de galérer en cherchant un logement étudiant? Juste après ce journal, je reçois Anne Gobin de l'Arpège. Avec elle, nous parlerons bon plan et vers 7h23, nous retrouverons Mathieu Altermal. Lui, il nous parlera de ses tubes revenus à la mode grâce à des séries télé. Mais avant cela, Marlène Duré, la tendance météo.
Oui, un dimanche qui débute sous le soleil, évoluant vers une ambiance lourde et orageuse pour le sud-ouest. Et on en parle à la fin du journal.
Jour de vote, nous sommes 48 millions de Français appelés aux urnes. C'est le premier tour des élections législatives.
Oui, ce scrutin va déterminer au soir du 19 juin si le président de la République a une majorité pour appliquer son programme. Alors aux Antilles, on en est déjà au stade du dépouillement. Le scrutin n'a pas mobilisé les foules, loin de là, puisqu'en Guadeloupe notamment, le taux de participation est de 25,31%. 15% en Martinique, ça c'était à 17h. en métropole. Les bureaux de vote, vous le disiez Stéphane, ouvrent dans une heure. Serez-vous au rendez-vous? On vous écoute.
Oui.
Oui, évidemment.
Bien sûr, ah oui. Ah oui.
Oui, oui, bien sûr. On se plaint tous, donc autant participer.
Comme au présidentiel, c'est important de se mobiliser. J'ai l'impression que ça se perd un petit peu. C'est très important car c'est un droit qu'on a eu du mal à conquérir.
Il y a tellement de pays dans le monde où on n'a pas le droit de vote que pouvoir voter, ça me semble pas une mauvaise idée. Et surtout quand on n'est pas d'accord et même quand on est d'accord.
Pour moi, ça va avec les présidentielles. En fait, si on vote pas après derrière pour voter aux législatives, ça n'a pas vraiment de sens parce que c'est eux derrière qui vont permettre de faire passer les lois. Donc c'est un devoir pour moi.
Franchement, j'en sais rien. Je me suis pas du tout intéressé à qui se présente, à quels sont les programmes, à quoi que ce soit.
Non, je vais pas aller voter. Pour les présidents, éventuellement, pour les législatives, il y a beaucoup de programmes et j'ai pas vraiment pris le temps de tout lire et tout ça. Donc je pense que moi, je vais m'abstenir.
Je suis désolée, moi, j'irai pas voter.
Un propos recueilli par Mathieu Limongi pour Europe 1. Nous serons dans un bureau de vote tout à l'heure à 9h pour prendre justement un petit peu la température.
Et je rappelle que ce soir, évidemment, nous aurons une grande soirée électorale sur Europe 1 et CNews à partir de 18h autour de Pierre de Villeneuve. Alors, on le disait, la foule ne s'est pas pressée aux Antilles. Eh bien, nous restons en Martinique un instant parce que l'île est en proie à un phénomène qui est la prolifération d'armes à feu.
Ce sont des armes directement liées au trafic de drogue. Rien que cette semaine, 3 personnes ont été tuées par balle, 12 homicides dans le territoire au cours des 6 derniers mois. Et le reportage sur place de notre correspondant Florin Aussu.
C'est quand même affolant, c'est quelque chose de banal.
Isabelle habite dans le sud de l'île, dans la commune où 2 personnes ont été tuées jeudi soir lors d'une expédition punitive. Une dizaine de coups de feu tirés dans un quartier d'ordinaire paisible. Pour cette mère de famille, un sentiment d'impuissance gagne la population.
À part s'insurger, à part faire des marches blanches, de temps en temps monter au créneau parce qu'on en a un ras-le-bol à l'instant T, mais on est obligé de faire avec.
À quelques kilomètres de là, à Fort-de-France, 2 jours plus tôt, un jeune de 28 ans a été tué d'une balle de gros calibre en pleine tête, victime collatérale d'un règlement de compte. Son père était en métropole au moment du drame, un homme désormais dévasté. Son fils n'avait commis aucun tort, si ce n'est celui de se trouver au mauvais endroit, au mauvais moment.
J'étais révolté, si vous voulez, que ce soit moi qui prenne la balle. Il ne méritait pas ça, le gamin ne méritait pas ça.
Depuis plusieurs mois, les forces de l'ordre constatent une circulation plus dense de ces armes à feu, souvent des armes de guerre. Une saisie tous les 2 jours est recensée par les équipes de gendarmerie. À Fort-de-France, Florin Aussu, Europe 1.
La circulation des armes à feu en cause également aux États-Unis où des milliers de manifestants se sont rassemblés hier pour arrêter le massacre, comme la récente tuerie d'Uvalde au Texas.
7h04 sur Europe 1, bon réveil en notre compagnie. Il ne fait pas bon avoir un scooter ou une moto à Paris. Dès septembre, le stationnement devient payant pour les deux roues motorisées.
Alors, si vous voulez esquiver, vous vous mettez au vélo ou alors vous convertissez votre deux roues en scooter électrique. C'est possible. Arthur Pereira s'est d'ailleurs rendu dans l'atelier de Noël, une entreprise qui est basée à Montreuil, pour observer comment on procède.
En 3 petites heures, la motocyclette française a perdu son pot d'échappement pour une batterie électrique. Depuis le début de l'année, Tommaso, mécanicien, enchaîne les conversions, plus de 350 véhicules électrifiés.
On part sur des moteurs et des composants qui sont sans entretien pour le client. À part les pneus et les freins, en soi, le client n'aura plus rien à faire derrière.
Dans la cour juste derrière l'atelier, Alex essaye un scooter électrique. La conversion de son deux roues est prévue en septembre et le trentenaire semble déjà conquis et prêt à débourser la somme de 800 euros.
Au niveau du bruit, c'est clairement différent. C'est vraiment agréable. On n'a pas ce petit pot là qui pétarade. On sent un couple vraiment intéressant. Au démarrage, c'est vraiment chouette à conduire. J'ai hâte d'avoir le mien.
Victor, le cofondateur de l'atelier, explique ce succès par 2 raisons.
Le prix de l'essence qui grossit vraiment fortement, le stationnement qui devient payant, notamment dans les grandes villes comme Paris, où là c'est vraiment un déclic pour beaucoup d'utilisateurs.
La demande devrait s'accentuer l'année prochaine puisqu'en 2024, 8 véhicules thermiques sur 10 ne pourront plus circuler dans la majorité des grandes villes.
Le reportage d'Arthur Pereira. Alors, ils ne sont pas encore électriques, mais ça arrive. On en parlait hier, les 24 heures du Mans. Et les Toyota, sans surprise, à 9h du terme, sont toujours devant.
Côté foot, eh bien, le marché des transferts commence à s'activer.
Le Real Madrid vient de s'offrir les services d'Aurélien Tchouaméni, le milieu de Monaco et de l'équipe de France, a signé pour 6 ans, 100 millions d'euros. C'est le plus gros transfert de l'ASM depuis Kylian Mbappé. Cyril de la Morinerie, Aurélien Tchouaméni, c'est un joueur qui n'est pas sans rappeler un autre milieu français.
Oui, c'est le nouveau Pogba, plus jeune, 22 ans, et tout aussi talentueux. Aurélien Tchouaméni rayonne au milieu de terrain
comme son aîné, il a la même assurance, la même facilité balle au pied. Le natif de Rouen, passé par Bordeaux, s'est fait un nom à Monaco. Il est devenu indispensable sur le rocher. En l'espace de 2 saisons, il n'a manqué que 7 matchs, ce qui lui a ouvert logiquement les portes de l'équipe de France, où il compte 11 sélections. En ce mois de juin, Tchouaméni remplace en équipe de France son quasi-jumeau footballistique, Pogba, qui est absent. Et Didier Deschamps, le sélectionneur, ne tarit pas d'éloges à son égard.
C'est un joueur complet qui est rayonnant avec son club. Il a été aussi avec nous. Certes, il n'a pas l'expérience que peut avoir Paul, mais potentiellement, je l'ai pris assez tôt. Il a en plus dans sa tête la maturité qu'il faut. Donc, je ne vais pas me plaindre de ça.
Et ce n'est pas étonnant que Paris et Madrid se soient positionnés. Mais le prestigieux Real a toujours eu la préférence de Tchouaméni, qui va retrouver les Français Benzema, Camavinga et Mendy à Madrid. Au Real, Aurélien Tchouaméni est censé faire oublier l'échec Kylian Mbappé.
Et tous ces bleus qu'on retrouve demain au Stade de France contre la Croatie. 3e match de Ligue des Nations à gagner pour ne pas être éliminé.
Ouais, pas le droit à l'erreur. Merci beaucoup les Naïga. Tout à l'heure. La météo et les températures aujourd'hui, on va découvrir cela avec vous, Marlène Duret.
Oui, ça ne change pas beaucoup par rapport à hier, Stéphane. Sensiblement identique avec encore 35 à 37 degrés entre le Languedoc, le Var, jusqu'en moyenne vallée du Rhône. 36 à Nîmes, par exemple, ou encore en Avignon. Nous aurons 33 du côté de Marseille, 31 à Clermont-Ferrand, 30 à Dijon, Bordeaux, 29 à Auxerre, 28 à Poitiers, 27 à Blois, 25 à Paris, 23 à Rennes. Et un petit 18 du côté du Havre. Dans le ciel calme au nord, ça évolue plutôt vers l'orage dans le sud-ouest, dans la journée entre les Pyrénées et les Alpes du Nord. Ambiance lourde donc pour cet après-midi.
Merci beaucoup Marlène, on se donne rendez-vous à 7h30. Restez avec nous à suivre dans votre matinale week-end sur Europe 1, la pénurie de logements étudiants, un casse-tête pour beaucoup de familles. Combien ça coûte? Quelles aides? Les pièges à éviter? Notre invitée Anne Gobin va nous aider à y voir plus clair dans les différentes formules possibles. À tout de suite.
Europe Matin Weekend, Stéphane Place.
Le casse-tête Parcoursup, les vœux, les choix. Et à présent, dans de nombreuses familles, on s'intéresse au logement pour l'étudiant qui va quitter le nid parental. Un chiffre que j'ai relevé dans un article du Monde cette semaine. La France ne compte que 380 000 places en résidence publique ou privée. Pour, tenez-vous bien, 2,7 millions d'étudiants. Une difficulté qui n'est pas nouvelle, mais on peut constater que ça ne s'améliore pas, malgré beaucoup de promesses. Un frein évident d'accès aux études, d'autant que les prix, c'est logique, au regard de la demande, explosent. Anne Gobin, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1 ce matin. Vous êtes la directrice de l'ARPEJ. Alors l'ARPEJ, c'est l'association de résidences pour étudiants et jeunes. Vous gérez en fait des résidences étudiants pour le compte de bailleurs sociaux. Je viens d'évoquer la situation avec des chiffres. Il va y avoir beaucoup d'étudiants qui vont encore se retrouver sur le carreau, qui vont galérer pour trouver une solution cet été.
Oui, probablement. Hélas, c'est une situation qui est tout à fait récurrente et que l'on rencontre chaque année, puisque pour un logement, on a en moyenne 7 à 8 demandes.
Alors l'ARPEJ, dont vous êtes la patronne, va ouvrir 511 nouveaux logements en juillet prochain, le mois prochain. Bravo, mais c'est vrai que ça semble, au regard de la pénurie, systémique, vraiment très peu.
Alors, en effet, la production est un sujet problématique depuis de nombreuses années. Si on regarde un petit peu dans le rétro, depuis les années 2000 avec le plan campus, il y a le constat d'une offre qui est insuffisante et différents plans qui ont tenté de remédier à cela. Il y a eu notamment, sous le quinquennat de François Hollande, un plan aussi qui existait, qui était le plan des 40 000. Là, nous sortons d'un plan des 60 000. Nous avons parlé de logements étudiants, mais je pense que l'on peut parler de logements jeunes de façon générale, puisqu'il y a une montée en régime de l'alternance et que les alternants peuvent être ou en résidence universitaire ou en résidence pour jeunes actifs.
Alors, il faut qu'on comprenne, qu'est-ce qui fait que c'est aussi compliqué d'arriver à bâtir pour loger ces jeunes? Vous avez raison de le souligner, pas simplement ces étudiants.
Alors, c'est très compliqué de façon générale en matière de logement. Pour ce qui est d'ARPEJ, nous sommes effectivement gestionnaires de résidences conventionnées. Vous avez mentionné le fait qu'elles appartiennent à des bailleurs sociaux. C'est tout à fait ça. Ça veut dire que les prix sont plafonnés et les ressources de nos locataires sont plafonnées. Ce qui est le mécanisme même du logement social. Or, la problématique du logement social est bien au-delà des jeunes, malgré des efforts très conséquents, avec une cause première qui est le prix ou la rareté du foncier, l'un étant lié à l'autre, et les conséquences qui en résultent pour équilibrer les opérations.
Alors, on va, ça c'est très intéressant, on va rentrer dans le très concret pour celles et ceux qui nous écoutent ce matin. D'abord, il y a ce qui coûte a priori le moins cher, c'est l'accès à une résidence du CROUS de l'université, les résidences étudiantes publiques. C'est ça le prix le plus abordable, mais tout le monde ne peut pas y avoir droit. Hein.
Alors, c'est ça. Vous avez effectivement les résidences de l'opérateur, entre guillemets, d'État, puisque c'est un établissement public administratif, le CROUS, qui a pour vocation de loger des boursiers, notamment des boursiers primo-bacheliers. Donc, ça veut dire que les capacités, il y a 180 000 logements au CROUS au niveau national, les capacités du CROUS ne sont pas suffisantes pour accueillir tous les étudiants et même tous les boursiers. Donc, les prix de leurs redevances sont effectivement souvent en dessous parce que les modèles économiques ne sont pas les mêmes, mais pour autant, ça ne laisse pas une offre suffisante. Arrivent ensuite les logements conventionnés, alors gérés par les propriétaires eux-mêmes ou par des associations gestionnaires, comme c'est le cas d'Arpège, où là, nous sommes néanmoins sur des prix qui demeurent abordables, et même pour les boursiers, puisque ça permet une majoration des aides au logement.
Alors, la question, parce que je devine là, les parents qui sont en train de boire leur café ou les jeunes et qui écoutent attentivement ce que vous leur dites, si on prend un exemple, entre 15 et 20 mètres carrés, parce que souvent c'est ça, hein, une surface pour un étudiant, c'est quel ordre de prix si on est dans ces tarifs conventionnés ?
Alors, effectivement, c'est du 18 mètres carrés le standard, si j'ose dire. Et selon où vous êtes, parce qu'effectivement, ce n'est pas rigoureusement la même chose si vous êtes en deuxième couronne ou en première couronne, il faut compter un loyer, une redevance, pardon, tout compris, qui est de l'ordre de 540 euros.
Là, vous parlez de la région parisienne, hein ?
Tout à fait, tout à fait. Sauf que dedans, il faut regarder ce que l'on y met, c'est-à-dire que les logements que l'on fournit sont des logements équipés, vous arrivez avec votre petit sac, vos petites affaires, mais en revanche, tout est déjà meublé. Par ailleurs, vous bénéficiez, c'est pris en compte dans la redevance, de l'eau, de l'électricité, du chauffage et d'Internet.
Donc ça,
tout cela étant sans surcoût.
Les résidences que vous proposez, vous, ces tarifs conventionnés, il faut remplir des conditions, évidemment.
Oui, effectivement, il faut avoir des conditions de ressources qui permettent d'accéder au logement social, puisque c'en est, sachant que ce sont les étudiants ou les jeunes eux-mêmes qui sont les contractants et que bien souvent, on n'est pas très embêté avec leur niveau de ressources puisqu'ils n'en ont pas. Les parents sont garants ou pour ceux qui ne peuvent pas avoir de garant parental ou familiaux, nous utilisons la garantie visale qui fonctionne avec le groupe Action Logement.
Alors, 540 euros pour 18 mètres carrés, ça, ce sont les tarifs conventionnés. Si on ne va pas dans une résidence du CROUS, si on ne remplit pas les conditions pour aller dans une résidence avec des tarifs conventionnés, on bascule dans le parc privé. Là, toujours, restons sur nos 18 mètres carrés. Je sais bien que ça va varier d'une région à une autre, mais en comparant des choses un peu équivalentes, on va basculer tout de suite dans des prix beaucoup plus importants, beaucoup plus élevés.
Tout à fait. On est de l'ordre de 750 à 800 euros.
Ah, quand même ?
Oui.
Là-dessus, il y a des aides ? C'est la question que se posent les parents et les jeunes.
Alors,
qui vous écoutent ?
Il peut y avoir de la location logement. Ce qui fait aussi la différence, si je raisonne par rapport à ce que je connais le mieux, à savoir Arpège, c'est l'accompagnement qui est proposé aux jeunes que vous ne retrouverez pas ou dans une très moindre mesure dans du privé.
Anne Gobin, je rappelle que vous êtes la directrice générale d'Arpège et on bénéficie de votre expertise ce matin sur Europe 1. Quand je vous écoute et puis quand j'ai en tête les souvenirs de reportages qui reviennent chaque année avec ces familles qui sont chez les agents immobiliers dans une ville, je vais prendre celle que je connais, Bordeaux, mais c'est vrai à Lyon, c'est vrai à Nantes, c'est vrai ailleurs, et qui ne trouvent plus rien parce qu'il n'y a tout simplement plus rien à louer pour des étudiants et qui finissent par dire « quelles solutions alternatives ?» C'est quoi les solutions alternatives ? On parle de résidence, je crois que c'est très à la mode, avec des espaces partagés, les investisseurs aiment ça et mettent pas mal d'argent dans ce type de construction, mais là aussi, c'est beaucoup plus cher, là, le chouette truc avec la cuisine, parfois la salle de sport, on retrouve les copains, on a sa chambre individuelle. Ça, c'est pour des gens qui ont un peu de moyens quand même, non ?
Alors, pas forcément, puisqu'il y a un certain nombre de résidences dans lesquelles, dans toutes nos résidences d'ailleurs, on a des espaces partagés, hein, ce que nous on appelle les live place, on a des salles pour travailler, il y a le bureau de nos collaborateurs, donc c'est un mélange, une résidence par définition est un mélange entre des logements qui sont complètement autonomes, chacun ayant sa propre kitchenette et ses sanitaires et sa douche, et des espaces communs où l'on peut aller si on veut rencontrer quelqu'un. C'est le principe même de la résidence. Et dans le prix que je vous ai annoncé tout à l'heure, des 540 €, tout cela est compris également. La mise à disposition de ces espaces est comprise.
Ça, c'est un point effectivement assez éclairant. On parle beaucoup de colocation. Fausse bonne idée ou alors effectivement, ça peut être une vraie solution ?
Alors, eu égard à la pénurie dont nous avons parlé préalablement, je crois qu'il n'y a pas de mauvaise solution. Et il y a un patchwork de solutions et toutes ont leur place pour qu'un maximum de jeunes puissent être logés. Et puis, ça serait réducteur de dire que tous les jeunes ont les mêmes aspirations.
Mais on touche les aides pareilles, on peut avoir ce type de dispositif qui se déclenche si on est en coloc.
Oui, oui, tout à fait. Tout à fait, sachant que l'aide au logement sera proportionnelle au loyer que vous payez. Donc si vous avez un loyer plus faible, vous aurez une APL plus faible.
L'appartement partagé avec un senior, ça peut être aussi une piste. Il faut des garanties, il faut cadrer le projet.
C'est une autre voie. En effet, il faut cadrer le projet. Il y a généralement une convention particulière qui est signée pour régler, entre guillemets, ou régir les relations entre les uns et les autres. Et c'est une voie qui peut convenir à certains qui souhaitent partager la vie avec un senior. Il existe également un dispositif dans le cadre de la loi Allure qui s'appelle l'article 109, qui permet de flécher un certain nombre de logements dans des résidences classiques de logement social pour les réserver à destination des jeunes. Donc en fait, il y a un patchwork de solutions. Toutes ont leur effet et sont opérants pour essayer de faire face à la pénurie globale de logements.
Anne Gobin, juste vraiment quelques mots. Une adresse d'un site internet, comment on retrouve tout cet éventail de possibilités en explorant un site sérieux ? Qu'est-ce que vous nous conseillez ?
Arpège.fr.
Ah bah, très bien, bon ben voilà, Arpège.fr. Merci Anne Gobin d'avoir éclairé notre lanterne ce matin sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes la directrice de l'Arpège, l'association de résidences pour étudiants et jeunes qui gère donc ces résidences pour le compte de bailleurs sociaux. Et bon courage aux étudiants, aux familles, je le sais, pour y être passés et qui nous écoutez en ce moment et qui vous lancez vous-même dans cette quête d'un logement pour la prochaine rentrée universitaire.
Europe Matin Weekend, Stéphane Place.
Nous sommes le dimanche 12 juin, c'est le moment d'aller récupérer votre carte électorale et votre pièce d'identité dans le tiroir de gauche. Là, vous savez, les bureaux de vote ouvrent dans moins de 3 quarts d'heure désormais pour le premier tour des élections législatives. 7h20 sur Europe 1, l'Info Express, Léna Higmonier.
Et justement, qui entrera à l'Assemblée nationale et qui n'ira pas ? Le quinquennat se dessine aujourd'hui. Les Français votent pour le premier tour des élections législatives. L'abstention est la grande inquiétude des partis alors que l'enjeu du scrutin est crucial. On l'estime à 50%. Soirée spéciale sur Europe 1 dès 18h. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, promet d'apporter une réponse la semaine prochaine à la demande d'adhésion à l'Union de l'Ukraine qui réclame un engagement juridique lui permettant d'obtenir au plus vite un statut de candidat officiel. Mais les 27 sont très divisés sur la question. Après la tuerie du Texas, des manifestations dans les grandes villes américaines hier pour arrêter le massacre des armes à feu au moment même où le Congrès examine la législation. Toulouse va logiquement en demi-finale du top 14, victoire 33-28 hier soir contre La Rochelle en barrage. Les Toulousains affronteront Castres la semaine prochaine et puis aux 24 heures du Mans, ça ne bouge toujours pas. Les favoris sont devant les deux équipages de Toyota.
Merci Léna Hig. Dans un instant sur Europe 1, Mathieu Alterman, il arrive avec une playlist qui va faire remonter à la surface, vous allez voir, c'est magique, des tas de souvenirs. Et pour cause, cette playlist contient toutes ces chansons qui connaissent une seconde jeunesse car elles sont remises au goût du jour dans des films ou dans nos séries télé préférées. Bon réveil, vous écoutez Europe 1.
Europe Matin Weekend. Stéphane Place.
C'est l'heure de pop culture, le regard décalé, parfois un peu vintage, vous m'autorisez à dire ça,
oui.
Ça fait tout le charme de votre rendez-vous, Mathieu Alterman. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Aujourd'hui, ce dimanche, ces chansons qui connaissent un nouveau succès grâce aux séries télé et puis aux films de cinéma.
Depuis une semaine Stéphane, la chanson numéro 1 mondiale est celle-ci. ça me rappelle des trucs. Running Up That Hill de Kate Bush, sorti en 1985. Pourquoi ? Parce que le morceau est utilisé dans la nouvelle saison de Stranger Things qui se déroule dans les années 80. Toute une nouvelle génération découvre la géniale artiste anglaise qui vient de remercier le public d'ailleurs dans un communiqué. Cet incroyable retour dans la lumière a connu des précédents. Toujours réutilisé dans Stranger Things en 2019, cette fois-ci, les jeunes s'entichaient de ce tube de 1984, extrait à l'origine de la BO de L'Histoire sans fin.
Mais oui, je me revois sur ma mobylette.
D'autres séries ont donné une deuxième vie à d'anciens succès, hein, comme celui-ci. Don't Stop Believing du groupe Journey est paru en 1981 et utilisé à foison dans de nombreux épisodes de la série Glee. Et il arrive même qu'une ancienne chanson obscure devienne culte des décennies plus tard, comme le Zoubi Zoubi Zou de Gillian Hills, daté de 1960. Zoubi Zoubi Zou. Est diffusé dans un épisode de la série Mad Men en 2012 qui en fait tout d'un coup un tube international et iconique.
Mais d'ailleurs, Mathieu, il arrive quand même de plus en plus souvent que le cinéma pioche parmi ses chansons, hein, de quoi illustrer ces images.
Tout à fait, le roi en la matière étant Quentin Tarantino, hein, dans pratiquement chacun de ses films, que ce soit Dick Dale dans Pulp Fiction avec Miserlo. Ou encore David Bowie avec son Cat People, sorti à l'origine en 1982 et utilisé en Inglourious Basterds. Ces dernières années, nous avons connu le retour au succès du groupe Black Sabbath avec leur Iron Man de 1970, entendu dans le film éponyme. Quant au cinéma français, il s'y met également, et c'est tant mieux. Dans Les Garçons et Guillaume à table de Guillaume Gallienne, le public redécouvrait Supertramp et Don't Leave Me Now, paru à l'origine en 1982. Et dans 120 battements par minute, tous les moins de 30 ans craquaient pour le Small Town Boy de Bronski Beat, daté de 1984.
Ah oui, ça je m'en souviens très bien. J'étais en quatrième, je crois. Mais vous voyez, des souvenirs restent frais dès qu'on entend la musique. Pourquoi, Mathieu, cette mode cartonne-t-elle selon vous ?
Pour deux raisons. D'une part, le public adore découvrir des chansons qu'il se réapproprie dans le monde d'aujourd'hui. Et ces titres prouvent ainsi qu'ils sont éternels. L'autre raison est l'effet Madeleine. On se raccroche à des moments que l'on a vécu et aimé. Et l'émotion d'une scène n'en est que décuplée. C'est pourquoi je terminerai par ce moment légendaire de la série Friends et qui étaye ma chronique. Lorsque Ross et Rachel doivent se décider à prouver leur amour. Pour les accompagner, une chanson de U2 parue 10 ans plus tôt, en 1987. Vous la reconnaîtrez tout de suite, l'émotion est incomparable. Bon dimanche.
U2 à l'instant avec l'ami Mathieu Alterman. Allez, dans 3 minutes, le journal de 7h30, Louise Salé, notre spécialiste éducation ici à la rédaction, nous dira pourquoi les lycéens qui ont essuyé un refus sur leur premier vœu Parcoursup ne doivent surtout pas se décourager. Le temps pour vous d'avaler une petite tartine ou une chocolatine, on dit aussi pain au chocolat je crois. Allez, on revient.
Europe Matin Weekend, Stéphane Place.
Bienvenue si vous venez de nous rejoindre, il est 7h30 sur Europe 1, le journal vous est présenté par Guillaume Dominguez. Bonjour Guillaume.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous. L'abstention marque déjà le premier scrutin des législatives dans les dom-tom. Seulement un quart des électeurs ont fait le déplacement en Guadeloupe où le vote s'est ouvert hier midi. Nous irons prendre la température sur l'île de la Réunion dans ce journal.
Les expatriés russes se mobilisent aujourd'hui partout à travers le monde, dans 35 villes et dans 20 pays différents. Tous veulent dénoncer la guerre en Ukraine. Nous entendrons l'organisatrice de la manifestation à Paris dans ce journal.
Le casse-tête Parcoursup ne fait que commencer pour les lycéens. Depuis 10 jours, une majorité d'entre eux sont confrontés au choix de valider une formation ou d'attendre qu'une place se libère ailleurs. Les explications de Louise Salé dans un instant.
Et puis au sommaire de la prochaine demi-heure sur Europe 1, la une du JDD, nos confrères consacrent ce dimanche tout un dossier très intéressant au baccalauréat. Dans Ça vous concerne, Valérie Darmon, elle, nous donnera quelques conseils très pratiques pour notre éventuelle reconversion professionnelle. Mais d'abord, la tendance météo avec vous, Marlène Duret.
Alors, chaud estival avec du ciel bleu toute la journée au nord, plus chaotique avec quelques orages possibles dans les régions du quart sud-ouest. Météo complète à la fin du journal.
Europe 1.
Le premier tour des législatives, c'est aujourd'hui et l'abstention risque d'être une nouvelle fois très élevée.
Oui, certains observateurs craignent que la moitié des électeurs ne fassent pas le déplacement comme en 2017. Dans les dom-toms où le vote a commencé hier à midi, les premiers chiffres confirment les prévisions. En Guadeloupe, par exemple, à peine 25% des électeurs ont fait le déplacement. Sur l'île de la Réunion, où les bureaux de vote ont ouvert il y a 3 heures, le constat est le même, Charles Huillier.
Et il est 8h, le bureau est ouvert.
Vive la France !
À l'ouverture de ce bureau à Saint-Denis ce matin, Georges est le seul à attendre devant la porte vitrée. Ça commence mal. Cet électeur de 83 ans est venu avec une photocopie de sa pièce d'identité. C'est interdit.
Ça, ce n'est pas une pièce d'identité, monsieur Fontaine.
Mais si, je n'ai que ça.
Vous n'avez que ça, mais moi, je n'ai pas le droit de prendre ça.
J'ai toujours voté avec ça. Mes originaux sont chez moi. Eh bien, je ne vote pas. C'est tout.
Martine, elle, est venue avec les bons documents. Mais au milieu de ce grand bureau de vote, elle se sent un peu seule.
C'est un peu le désert. Il y a pas beaucoup de monde et je pense que ça va être comme ça toute la journée. Et à la Réunion, je pense que ce sera beaucoup plus d'abstention parce que les gens sont vraiment pas intéressés, quoi.
Un pessimisme pondéré par les assesseurs qui, eux, veulent rester positifs malgré le début de journée timide.
La grande inconnue, c'est le taux de participation. Pour nous, organisateurs, c'est une crainte. Après, il est encore tôt. Et après, c'est en fin de matinée où on a vraiment une affluence un peu plus importante. Voilà, on croise les doigts. Donc, on espère quand même que les gens vont se mobiliser. Mais c'est vrai que certains, c'est un peu compliqué.
Compliqué ici, où le taux d'abstention depuis 10 ans est en hausse constante, élection après élection.
Le reportage sur place de Charles Huillier pour Europe 1. Jour d'élection législative en France, mais aussi jour de mobilisation internationale. L'association de défense des droits humains Russie Liberté appelle aujourd'hui à manifester dans le monde entier pour rappeler l'opposition de nombreux Russes à la guerre en Ukraine. À Paris, plusieurs centaines d'expatriés russes sont attendus place de la Bastille à 14h. Une mobilisation inédite pour Olga Prokopieva, porte-parole de l'association.
C'est une manifestation sans précédent d'une grande ampleur. L'objectif, en fait, c'est de montrer que les Russes sont fortement mobilisés contre la guerre en Ukraine. Malheureusement, ils n'ont pas la possibilité de manifester en Russie parce que c'est aujourd'hui que toute personne qui manifeste de quelque manière que soit contre la guerre ou qui s'exprime sur les réseaux sociaux est arrêtée et poursuivie. On le fait ici en France et dans d'autres pays du monde pour être le relais de leur voix. Et bien sûr, pour manifester notre solidarité avec les Ukrainiens, pour sensibiliser aussi la société française pour leur montrer à quel point les répressions sont fortes en Russie et à quel point il y a de nombreux Russes qui s'opposent à la guerre. Ce n'est pas une guerre menée au nom de tous les Russes.
Ouais, des propos recueillis par Mathieu Limongi pour Europe 1.
Depuis 10 jours, et c'est toujours un peu stressant pour les familles, les réponses de la plateforme Parcoursup arrivent dans les boîtes mail des lycéens.
Et parmi les 900 000 candidats, les 3/4 ont déjà reçu au moins une proposition positive. Ils ont le choix de l'accepter ou d'attendre qu'une place se libère dans d'autres formations. Certains doivent donc s'armer un peu de patience, Louise Salé.
Oui, et ça peut durer jusqu'au 15 juillet. Les réponses arrivent au compte-gouttes au fur et à mesure que les candidats ayant été acceptés dans plusieurs formations libèrent des places dans les cursus qui les intéressent moins. Mais Jérôme Teillard, chef de projet Parcoursup, se veut rassurant.
Le processus se déroule tout à fait normalement et il va plus vite qu'en 2021. Là, on est dans les 10 premiers jours. C'est assez normal que des candidats fassent des choix, mais provisoires, parce qu'ils attendent d'autres propositions. Et progressivement, le dispositif va se consolider, va converger de manière à ce que les candidats trouvent la proposition qui leur convient.
Marie Gabrielle, 17 ans, vient justement de libérer des places. Elle a reçu 5 réponses positives ces derniers jours, dont son vœu favori.
J'étais sur liste d'attente le 2 juin et le 8 juin, j'avais déjà une proposition d'admission. J'ai fait mon choix le 8 juin et j'ai choisi la licence de droit franco-italien, ce qui a permis de libérer des places pour d'autres gens.
Pour ceux qui n'ont que des refus ou qui sont très loin dans les listes d'attente, les équipes de Parcoursup s'engagent à les accompagner. Il faut les contacter sur le site afin de préparer la phase complémentaire qui démarre le 23 juin.
Les explications de Louise Salé. Merci Louise.
On prend à présent la direction du Mans. C'est évidemment là que se sont rassemblés les passionnés de voitures ce week-end. La ville accueille les traditionnelles 24 heures du Mans.
Oui, 250 000 visiteurs sont attendus pour ce grand rendez-vous automobile. Et juste à côté du circuit se niche le musée des 24 heures, un énorme hangar qui renferme 140 voitures de collection qui ont toutes concouru. Marie Jiquel s'y est baladée à pied pour Europe 1.
De beaux joujoux aux prouesses, des coiffantes qui font rêver les petits et les grands. Fabrice Bourigaud, directeur du musée, l'avoue, parfois la nuit, il retrouve son âme d'enfant en se baladant entre ces voitures qui ont été données, elles sont bien bichonnées.
On n'est pas dans de la restauration à l'américaine, on essaye de garder les voitures avec leurs patines et avec leurs traces de l'histoire.
Derrière ces carrosseries, un récit, une mythologie, comme cette Porsche orange et bleue, star de la course de 1971.
Porsche, c'est la marque qui a le plus gagné Le Mans. C'est aussi une voiture qu'on a vue portée au cinéma par Hollywood, par Steve McQueen avec son fameux film Le Mans.
Parfois, les véhicules cachent des trésors comme cette Toyota et ses porte-bonheur.
Je ne sais pas si on peut les voir, mais attachés avec un petit morceau de ficelle sur des composantes électroniques de la voiture, vous voyez, il y a ce petit sachet avec cette écriture en japonais dorée pour protéger la voiture. Ça a pas mal marché puisqu'elle a fait deuxième.
100 ans d'histoire défilent sous nos yeux avec leur capot bien brillant, des torpedos volants à droite des années 20 à la Toyota victorieuse de 2020.
Et Toyota qui fait la course en tête cette année encore, partie en pole position. La numéro 7 semble être bien partie pour s'imposer cette année encore. Et on finit avec du rugby. Toulouse s'est imposée pour les demi-finales de Top 14 en battant hier soir La Rochelle 33-28. C'est la 7e victoire consécutive des Toulousains face aux Maritimes. Vendredi prochain, ils affronteront Castres pour tenter de décrocher et de remporter le bouclier de Brennus.
Et ce soir, Guillaume, à 21h, c'est Bordeaux-Bègles Racing 92.
Hein. N'oublie pas,
ah
Stéphane,
non,
n'oublie
moi
pas.
J'oublie pas, moi. Merci beaucoup, Guillaume. La météo, à présent avec vous, Marlène Duré. On n'est pas loin d'une vague de chaleur, là.
Mais en tout cas, on peut l'envisager, Stéphane. L'air très chaud en Espagne va gagner la moitié sud de la France la semaine prochaine. Une vague de chaleur précoce est possible à partir de mardi ou mercredi, mais Météo France a encore quelques incertitudes sur son étendue, son intensité et sa durée. Ce qui est sûr, c'est que les températures vont monter d'un cran dans le sud-ouest. Entre mercredi et vendredi, ces fortes chaleurs vont gagner le nord du pays avec un pic de chaleur à l'échelle nationale prévue pour vendredi ou samedi prochain, c'est-à-dire qu'on pourrait dépasser les 35 degrés au nord comme au sud. Donc,
C'est à suivre.
En attendant, Météo France prévoit pour aujourd'hui, pour cet après-midi, jusqu'à 37 degrés localement entre la moyenne vallée du Rhône, le Var et le Languedoc. Nous aurons 35 à Carcassonne, 32 à Salon de Provence et Saint-Étienne, 33 à Albi, 30 à Colmar, à Montluçon, 28 à Tarbes, Guéret, 27 à Nancy, 25 à Paris, 22 à Lille, 21 à Rouen ou encore 20 à Brest. Et dans le ciel, donc belle matinée pour commencer la journée. Mais attention, de la Nouvelle-Aquitaine au Midi-Pyrénées, c'est vrai que le ciel n'est pas tout bleu. Quelques ondées sont possibles déjà dès la fin de matinée. Ces ondées vont tourner à l'orage cet après-midi et en soirée entre les Pyrénées et le Massif central. Et ce temps instable pourrait d'ailleurs gagner les Alpes du Nord, la Franche-Comté, voire les Vosges.
Merci beaucoup Marlène, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
La une du JDD avec le directeur adjoint de la rédaction. Bonjour Pascal Saut.
Bonjour Stéphane.
Alors Pascal, en ce jour de vote, on ne va pas parler des élections puisque la loi nous impose une période de réserve, mais on va parler d'un autre genre d'épreuve qui est aussi au programme, mobilisant encore plus de candidats mercredi prochain.
Oui, et ils sont cette année 709 399 candidats. Ils vont plancher dans 3 jours sur l'épreuve de philosophie, puis à partir du 20 juin jusqu'au 1er juillet, ils passeront leur grand oral. Mais aujourd'hui, l'examen du bac n'est plus le même. Avec la réforme initiée par l'ancien ministre Jean-Michel Blanquer, tout est, presque, déjà joué. Le contrôle continu et l'épreuve de spécialité passée au mois de mai représentent en effet 82% de la note finale. La pression baisse donc pour les lycéens. De conséquence, la démobilisation qui gagne du terrain et le taux d'absentéisme en classe à la hausse.
C'est aussi à lire dans le JDD ce matin. À l'approche des vacances d'été, le PDG d'Air France KLM s'exprime dans les colonnes du journal du dimanche. Pascal, on sait que la période a été très compliquée pour le transport aérien. Est-ce qu'Air France KLM est tiré d'affaire ?
La pandémie du Covid a eu un effet redoutable, nous dit Ben Smith, qui dirige le consortium depuis bientôt 4 ans. En 2019, 54 millions de passagers avaient été recensés. En 2020, il n'était plus que 18 millions. Et l'année dernière, les pertes se sont élevées à 4 milliards d'euros. Il a fallu un prêt exceptionnel de 7 milliards de l'État pour éviter la chute. Ben Smith espère une reprise cet été, même si planent deux nouvelles menaces. Des grèves de personnel ont déjà provoqué des dizaines d'annulations de vols et la hausse du carburant va être répercutée sur le prix des billets.
Alors, dans le JDD ce dimanche, vous évoquez aussi l'étrange affaire des piqûres qui mobilisent les enquêteurs depuis plusieurs semaines, des enquêteurs qui peinent à cerner le phénomène.
Ce pourrait être la grande peur de l'été. 461 victimes ont déjà été recensées à travers tout le pays. Ce sont en majorité des femmes et ces mystérieuses agressions ont lieu dans les boîtes de nuit, les festivals, les soirées étudiantes, les férias et les bals de campagne. Le plus surprenant, c'est que jusqu'à présent, aucune substance toxique n'a été retrouvée dans le corps des personnes piquées, sauf dans un cas. On ne compte qu'une arrestation à Toulon où un piqueur a été identifié par trois de ses cibles. Plusieurs festivals de l'été ont annoncé le renforcement de leurs mesures de sécurité. Plus d'agents seront déployés sur les lieux et des avertissements seront donnés aux participants.
Merci beaucoup Pascal Sceaux. Je rappelle que vous êtes le directeur adjoint de la rédaction du journal du dimanche. Dans la foulée, on regarde bien sûr les titres des autres quotidiens ce dimanche matin. Le Parisien dimanche offre un tour complet des enjeux des élections législatives, dont le premier tour se joue donc aujourd'hui. Une autre course dans le Maine libre, les 24 heures du Mans. Naturellement, le journal est allé à la rencontre des spectateurs venus de toute la France pour assister à la plus grande course d'endurance du monde aujourd'hui, la plus grande course automobile. Photo vintage et gros dossier, je l'ai sous les yeux là dans Var Matin qui nous raconte ce dimanche McCartney, l'azuréen, l'ex-Beatles, aura 80 ans dans une semaine. L'occasion de raconter son épopée de Toulon à Nice en passant par Cannes, son épopée sur la Côte d'Azur. Et enfin, pendant que la Nouvelle République note que les clubs de la région de Tours, les clubs de foot, misent de plus en plus sur les jeunes femmes qui sont de plus en plus nombreuses à venir taper dans le ballon, eh bien, nos amis du Sud-Ouest rappellent eux que les rugbymen de l'UBB n'ont pas le droit à l'erreur ce soir. Victoire obligatoire contre le Racing 92 pour accéder aux demi-finales du top 14. Dans un instant, avec Valérie Darmon et Roland Pérez, on va parler des aides pour limiter les effets de l'inflation. Roland va vous aider à vous y retrouver. Et puis, nous parlerons aussi avec Valérie de l'ère du switch. Ça vous dit rien, le switch ? Eh bien, raison de plus pour rester sur Europe 1. Vous saurez tout dans un instant. Ça vous concerne, ça nous concerne. À tout de suite.
Réveillez-vous. Informez-vous. Avec Stéphane Place sur Europe 1.
Et comme tous les dimanches, ça vous concerne avec Valérie Darmon, bien sûr, et Roland Pérez. Bonjour à vous deux.
Bonjour à tous.
On va commencer avec vous, Valérie, avant d'aller voir Roland dans quelques instants. L'ère du switch, ça vous dit quelque chose ? C'est comme ça, en fait, qu'on appelle les personnes qui changent de métier plusieurs fois au cours de leur vie. Autrement dit, il n'y a pas qu'une vie dans la vie, contrairement à ce que nous dit Isabelle Morin sur Europe 1 tous les week-ends. La mise en place de la reconversion, vous y avez peut-être déjà songé, d'autant que la crise sanitaire a renforcé les envies de ce côté-là. Valérie, c'est le thème que vous avez choisi aujourd'hui.
Effectivement, qui dit reconversion dit très souvent prise de tête. On sait qu'on veut changer de vie ou de domaine professionnel, mais on ne sait pas comment s'y prendre. Près de 40% des actifs prévoient une formation professionnelle en 2022. Bernard a envie de faire partie des prochains à réussir son changement professionnel et d'être le 1 actif sur 10 à changer de métier avec succès. Actuellement, il occupe un poste de cadre supérieur, il travaille 50 heures par semaine, le changement de vie et de métier s'impose.
Je commence la semaine le lundi matin en attendant une seule chose, c'est le vendredi soir. Donc quand on en est à ce stade, la nécessité de changer pour retrouver une activité que l'on choisit et qui donne un sens à sa vie est juste une évidence. Mon problème est d'abord d'identifier mon projet de reconversion, parce que je sais que je dois changer, mais je ne sais pas pourquoi faire. Donc je suis dans la phase où je tourne en rond, je m'interroge, je végète, sans trouver de réponse claire. Donc j'imagine que c'est un passage obligé. Et en même temps, je n'adhère pas vraiment au schéma de reconversion classique du genre bilan de compétences qui mettent les gens dans des cases.
Ah, il résume bien les choses, Bernard, mais effectivement, il compte les jours jusqu'au vendredi, là, il est peut-être temps. Est-ce que cette crise sanitaire que nous venons de traverser, Valérie, a intensifié chez les salariés l'envie de changer de métier ou de revoir complètement l'orientation professionnelle ?
Absolument, absolument. Selon France Compétences, 25% des actifs du privé déclaraient début 2021 avoir connu au moins une reconversion depuis 5 ans. Un tiers d'entre eux l'envisageaient en 2015 et 47% en 2021.
Donc, 4 reconversions sur 10 qui se déroulent sans recours à la formation. Mais quel est le meilleur moyen de se reconvertir ?
Alors, 22% des actifs concernés ont fait appel à leur CPF, 20% un bilan de compétences, 13% l'accompagnement du CEP. Et pour tout savoir sur la marque à suivre, je vous propose de recevoir ce matin Claire Pascal, directrice générale de Komundi, acteur historique de la formation professionnelle en France. Bonjour, merci d'être avec nous.
Bonjour, merci de me recevoir.
Première question, est-il absolument nécessaire de faire un bilan de compétences pour se reconvertir ?
Alors non, il n'est pas nécessaire. C'est quand même une phase qui peut être assez utile en amont d'un projet de reconversion, de faire le point un peu sur ses compétences avant de se lancer dans un projet. Bernard, qu'on a entendu tout à l'heure, ne sait pas très bien où il veut aller. ça peut être intéressant pour lui de faire un bilan de compétences pour faire un peu le point sur quel est le socle de compétences dont il dispose et surtout quelles sont les activités qu'il aime faire. Claire, et donc le bilan de compétences peut l'aider. Voilà.
Claire Pascal, en tant que spécialiste, qu'est-ce que vous recommandez pour le financement de la reconversion? On fait comment et est-ce que ça s'applique à chaque fois?
Alors, il y a beaucoup de financements possibles. Il y a globalement 5 possibilités de financer les reconversions professionnelles. La première possibilité qui est le plus utilisée, c'est le CPF. On en a parlé tout à l'heure. Vous parliez du bilan de compétences. Le bilan de compétences est éligible au CPF. Donc, on peut financer sa reconversion et son bilan de compétences par le CPF. Je rappelle que le CPF, c'est un abondement de 500 euros par an, plafonné à 5 000 euros. Beaucoup de salariés ont bénéficié d'un report de leurs droits sur le CPF et donc beaucoup ont sur leur CPF de quoi financer une reconversion professionnelle.
En quelques mots, Claire Pascal, en quelques mots, sur quels critères les Français choisissent-ils leur formation professionnelle en 2022? En général, quelles sont les cases qu'on doit cocher?
Si c'est un projet de reconversion, ils vont d'abord chercher des certifications, des formations certifiantes. Ça va leur donner une base pour pouvoir se vendre sur un CV, se vendre sur un secteur d'activité. Et puis après, ils vont beaucoup utiliser les bilans de compétences, mais aussi beaucoup utilisent l'entretien professionnel qui est obligatoire dans les entreprises pour faire le point avec leur employeur et leur manager sur les compétences dont ils disposent et pour pouvoir aider justement à cocher ces cases en disant vers où je pourrais aller, où je me sentirais bien et où je pourrais bénéficier d'un socle de compétences que j'ai déjà acquis par mon expérience.
Merci beaucoup Claire Pascal pour cet éclairage ô combien précieux. Je rappelle que vous êtes la directrice générale de Comundi, un acteur historique de la formation professionnelle en France. Merci Valérie Darmon.
À tout de suite.
On retrouve dans quelques instants Roland Pérez. De quoi va-t-on parler Roland?
Alors, on va parler Stéphane des nouvelles aides financières qui arrivent pour les ménages les plus modestes et ces fameuses piqûres, ces fameuses seringues qui sévissent dans les lieux festifs.
Ne bougez pas, c'est dans un instant sur Europe 1.
Europe Matin Weekend, Stéphane Place.
Le fil info de ce dimanche 12 juin, alors qu'on approche des 7h51, Guillaume Dominguez.
La demande de l'Ukraine d'obtenir le statut de candidat à l'Union européenne se précise. En déplacement à Kiev, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a indiqué que les discussions d'aujourd'hui vont nous permettre de finaliser notre évaluation d'ici la fin de la semaine prochaine. Trop, c'est trop, arrêtons le massacre. Des milliers d'Américains se sont rassemblés hier dans les grandes villes des États-Unis. Une journée de mobilisation pour demander le contrôle renforcé des armes à feu après une série de fusillades meurtrières ces dernières semaines. La Chine va se battre jusqu'au bout pour empêcher Taïwan de déclarer son indépendance. C'est une annonce du ministre chinois de la Défense en plein bras de fer entre Pékin et Washington au sujet du sort de l'île.
Merci Guillaume, à tout à l'heure. Dans un instant, on retrouve la suite de Ça vous concerne avec Roland Pérez et Valérie Darmon. Merci de votre fidélité à Europe 1.
Réveillez-vous, informez-vous avec Stéphane Place sur Europe 1.
Ça vous concerne, la seconde partie, ce rendez-vous qui nous apporte à tous des éclairages et des réponses, surtout avec vous les amis, Valérie Darmon, Roland Pérez, rebonjour à tous les deux.
Rebonjour.
Roland, comme chaque dimanche, on aborde ces questions de droit qui sont dans notre quotidien, avec notamment cette perspective d'aide significative, d'aide financière pour endiguer l'inflation et le coût de l'essence. Elle devrait entrer en vigueur à la rentrée. Qui pourra en bénéficier et surtout quels seront leurs montants?
Alors, on ne connaît pas tout à fait encore le montant, mon cher Stéphane. Ce que l'on sait, c'est que cette prime va être allouée aux familles en difficulté en raison de l'augmentation des prix des produits de première nécessité. Vous savez que la hausse des prix dépasse à l'heure actuelle 5%. Il s'agit en fait d'un chèque alimentaire qui va être directement versé sur le compte bancaire des intéressés. Il n'y aura aucune démarche.
Alors il est question, je crois Roland, que ce chèque qui sera donné devrait être dépensé pour acquérir des produits alimentaires exclusivement fabriqués en France et non pas des denrées alimentaires importer, c'est bien
oui,
ça?
Oui, c'est ça. Alors en fait, c'est un casse-tête. Ça va être un casse-tête pour tout le monde, car il va falloir avoir des caisses enregistreuses quasiment dans les supermarchés pour savoir si ce chèque alimentaire peut payer des prix des produits ou non importés. Donc cette question n'a pas encore été réglée.
Et puis, il y a évidemment le carburant avec la ristourne actuelle, 18 centimes. À la rentrée, ça ne marchera pas forcément tout à fait de la même manière. On dit qu'on va cibler, aller vers les gros rouleurs. Ça veut dire quoi?
C'est ça. En fait, cette aide sera effective également septembre prochain. Elle concerne ceux qui sont obligés de parcourir beaucoup de kilomètres
km quotidiennement pour aller travailler ou pour travailler. On pense évidemment aux transporteurs de poids lourds. Là aussi, le pouvoir d'achat de cette population souffre de la hausse des prix du carburant et on ne connaît pas encore le montant de l'aide.
Oui, alors là, Roland, il y a déjà une ristourne de 18 centimes d'euros par litre à la pompe qui est mise en place pour atténuer la hausse de l'essence.
Oui, alors justement, elle va rester en vigueur, elle, jusqu'à fin août, alors que le prix de l'essence est repassé, on le sait, au-dessus de 2 euros le litre. Et ensuite, il y aura cette fameuse prime de gros rouleurs.
Alors, ça, c'est le sujet ô combien sensible des aides. On va passer à la deuxième question qui nous préoccupe ce matin sur Europe 1, Roland Pérez. Question qui nous préoccupe d'autant que l'actualité rapporte ces histoires de piqûres sauvages dans les milieux festifs, hein, je pense notamment aux discothèques, et même dernièrement dans des concerts retransmis à la télé, comme celui présenté par Nikos Aliagas sur TF1. C'était samedi dernier, la chanson de l'année où plusieurs jeunes femmes ont été victimes de ces piqûres anonymes. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est victime dans une situation pareille? Et puis, que risquent les auteurs si on les retrouve de
alors,
ces agressions?
Dire, Stéphane, bonne nouvelle, parce que pour la première fois la semaine dernière, un auteur présumé a été arrêté, entendu et mis en détention provisoire, ce qui devrait faire réfléchir ceux qui s'adonnent à ce type d'agression qui peut s'avérer lourd de conséquences parce qu'on ne sait pas ce que contiennent finalement ces seringues. Et puis ceux qui sont piqués sont très anxieux parce qu'ils ne savent pas si c'est dangereux ou pas. Donc les mains, les bras, le postérieur sont les cibles des agresseurs et le réflexe est d'aller aujourd'hui aux urgences pour faire un prélèvement sanguin, pour déterminer ce qui a été injecté. On prend des photos également de ces fameuses piqûres et puis on déclare très vite, on porte plainte pour savoir si les caméras peuvent établir qui sont les auteurs.
Alors, quelle est justement l'infraction qui est poursuivie et que l'on doit indiquer dans la plainte?
Alors, ça peut être administration de substances nuisibles et dans tous les cas, infraction de violence aggravée par arme. Avec préméditation, l'arme, c'est la seringue, vous l'avez compris. Les peines pouvant aller d'une simple amende à 150 000 euros, voire même 20 ans de prison en raison des substances qui peuvent être injectées.
Bien mémoriser les peines quand même, ça en dissuadera certains. Merci beaucoup Roland Pérez, merci beaucoup Valérie Darmon. On vous retrouve évidemment la semaine prochaine à la même heure pour Ça vous concerne. Et puis, je vais vous proposer une piqûre, mais celle-ci est totalement inoffensive, une piqûre musicale. Drôle de vie, Véronique Sanson, c'est sur Europe 1. Bon réveil.
Tu m'as dit que j'étais faite.
Dans un instant, la suite de la matinale avec Isabelle Moreau et l'interview, bien sûr, de Jean-Pierre Elkabbach. À tout de suite.